Je préfère l'anglais. J'attendais quelque peu parce que j'avais un doute sur la venue de Mario Cotron, qui est le président de cette maison. Et pour le petit mot d'accueil, donc nous allons nous passer du petit mot de Mario. Je sais qu'il est très heureux que nous organisions cette soirée dans sa maison, si on peut dire. Bienvenue à tous. Et puis écoutez, on va essayer d'organiser ce deuxième temps de travail sur la question de la participation citoyenne. Donc avant de céder la parole à notre intervenante et notre intervenant, un petit rappel de la démarche. Après le déroulement de la soirée, je vous dirai quelques mots du déroulement de la soirée, bien sûr. Et enfin, les perspectives, même si les perspectives par rapport aux premiers écrits que vous avez pu recevoir les uns les autres, il y a quelques changements. Alors sur la démarche, il faut d'abord que vous sachiez que le Conseil de développement responsable de Grand Poitiers est dans sa dernière ligne droite. Notre vie est calquée sur la vie des élus. Et donc, comme les élections ont lieu en mars prochain, eh bien, le Conseil sera renouvelé, ce qui est tout à fait logique. Et donc, cette fin de mandat, à la fois, on a les groupes de travail classiques, que pour la plupart, je pense, vous connaissez, qui sont en train de terminer leurs travaux. Mais à la dernière assemblée plénière, on a décidé de se focaliser sur deux aspects. Et en y réfléchissant avant pour préparer cette soirée, je trouvais ça assez comique d'ailleurs de voir quels sont ces deux sujets. Il y en a un sur la participation citoyenne, donc c'est ce dont nous allons traiter ce soir. Mais l'autre, c'est sur Poitiers 2030. Donc il y en a un sur la question de la prospective, un peu qu'est-ce qu'on va laisser à...
Au titre de la gloire.
Alors, oui, tu as raison de me le rappeler, Dominique. Bien évidemment, nous sommes conseil de l'agglomération de Grand Poitiers, donc c'est bien au titre de l'aglo. Nos perspectives ne sont pas de traiter de l'économie mondiale ou de je ne sais quel autre sujet, mais bien des préoccupations et des problèmes que l'on peut avoir. Donc on est un peu dans ce groupe sur le temps long, sur qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui vont venir après nous. Et puis on a un deuxième groupe donc sur la participation citoyenne, sur la créativité des citoyens. Et je trouve ça assez symbolique. C'est-à-dire qu'on essaie à la fois de voir un peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer, mais aussi qu'est-ce que font les gens déjà. Parce que pour une grande part, notre avenir, il est déjà commencé. Et c'est bien ce que créent les gens aujourd'hui qui va ou pas nous permettre de réaliser un certain nombre de choses dans l'avenir. Voilà. Donc maintenant, pour vous rappeler un peu ce qui a eu lieu, le 9 avril dernier... Bon, à la Maison des projets à Buxerolles, on a donc réalisé le Forum des initiatives citoyennes. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents. Et on a pu à la fois constater les initiatives et la capacité d'initiative qui existait réellement sur notre territoire. On a essayé de faire se rencontrer aussi ces différentes initiatives, parce que ça, c'est déjà un constat qu'on a pu faire. C'est que c'est pas si facile de savoir exactement tout ce qui se réalise sur un territoire et de permettre les échanges entre les uns et les autres. Mais aussi, on a essayé dans cette soirée de tirer un certain nombre d'enseignements, c'est-à-dire ce que c'était que la participation pour les uns et les autres, et puis d'essayer de clarifier, de faire différentes cartes ou de répondre à un certain nombre de questions. Et on était un peu plus de 130 et il y a eu une très très bonne participation, y compris dans cette phase, ce qui est très intéressant et ce qui certainement va nous permettre de débattre utilement et intelligemment avec notre intervenant en particulier, parce que c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur des choses que nous avons déjà un petit peu abordées. Voilà. Et donc ce soir, nous avons le grand débat. C'est du moins comme ça qu'on l'avait appelé. Et l'idée, c'est bien sûr de prendre un peu de recul par rapport à toute cette question de la participation, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui à la fois est à la mode, mais qui n'est pas obligatoirement très très bien connu. Et peut-être qu'il est intéressant, parce que On y retrouve un peu des carpes, des lapins et tout. Donc, bon, c'est vrai qu'on veut faire de la soupe, mais ce n'est que de la soupe. Donc, ce n'est pas obligatoirement très, très lisible. Et je pense que la fonction de cette soirée, c'est d'essayer de se repérer un peu mieux pour progresser encore, encore plus. Hein. Et puis, mieux alimenter ceux qui ont d'initiative, mieux se coordonner. Enfin, essayer de voir un peu qu'est-ce qui peut nous faire avancer collectivement. Et pour ça, donc, on a fait appel à Rémi Lefebvre. Je ne le présente pas. Il se présentera lui-même tout à l'heure. Mais surtout, il vous dira un petit peu les travaux qu'il a pu faire sur ce sujet-là. Mais dans un premier temps, on va demander à Julie, qui est en stage, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, hein, en stage au service prospective et coopération territoriale qu'anime Dominique et pour lesquels travaille Virginie. Et elle va nous faire une synthèse des travaux qu'on a pu réaliser la dernière fois, de façon à favoriser ce lien, mais aussi qu'on essaie de partir tous un peu au même niveau d'information. Voilà, et je terminerai par les perspectives. Normalement, on vous avait annoncé... Ah, ça commence mal, Julie. C'est pas fait pour ça. Bon, on va réparer. Et donc, on vous avait promis une semaine de la citoyenneté. En fait, pour des raisons de collusion avec la campagne des municipales, apparemment, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes juridiques et surtout financiers, si j'ai bien compris. Donc, nous avons à la commission. Vous savez qu'on a une commission qui travaille sur ce sujet-là et qui va travailler jusqu'à la fin de la vie de ce conseil. On a donc décidé de changer un peu notre fusil d'épaule. Et plutôt que de se focaliser sur une semaine, on va participer à un certain nombre soit d'initiatives. On va aussi essayer de continuer à labelliser, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais on n'a toujours pas trouvé d'autre, mais au moins soutenir un certain nombre d'initiatives. Et notre ami de toutpoitiers.com est là, et se fera un plaisir aussi de le mettre sur le site, de façon aussi à poursuivre cette connaissance collective que nous allons avoir des initiatives citoyennes. Donc cette action, hein, pour terminer à la place de la semaine de la citoyenneté, et s'organisera autour de trois objectifs sur le maintien d'une sorte de référencement, hein, et de communication. Le deuxième objectif, c'est de poursuivre la compréhension des mécanismes d'accompagnement, parce qu'on a vu que l'accompagnement des initiatives était quelque chose de très important dans leur émergence et des fois dans leur institutionnalisation d'une certaine façon. Et pour ça, on va programmer des rencontres avec les comités de quartier, avec les conseils de quartier. On aura aussi des temps de rencontres avec des sujets, hein, sur des sujets supports. Et enfin, un troisième objectif qui sera de nous associer à toute une série d'événements locaux. Et alors, plutôt que ce soit nous qui soyons, c'est peut-être d'ailleurs plus cohérent. C'est-à-dire que comme on parle d'initiatives, eh bien, nous allons nous appuyer sur les initiatives qui seront prises. Alors, il y en a déjà une en perspective autour des initiatives des jeunes, hein. Mais il y en a toute une série qui sont déjà prises, avec le plan B, avec Radio Pulsar. Donc on va essayer à chaque fois...
Le CRIJ,
oui. Oui, c'était au CRIJ que je pensais, excuse-moi Maryse, de ne pas t'avoir cité, enfin de citer ton organisme. Donc on a déjà, et cette liste va s'allonger au fur et à mesure, hein, puisque notre ambition, c'est à chaque fois d'accompagner, de travailler avec, de façon à nous enrichir. Voilà. Avant de passer la parole à Julie, qui donc va nous faire un retour de la soirée du 9, je terminerai peut-être par quelques formules en porte-pièce, un peu comme d'habitude, mais généralement notre temps est contraint. Mais il nous semble que, vu la période dans laquelle on est, hein, où on a quand même un certain nombre de sujets d'inquiétude, il nous semble que mettre en avant un certain nombre d'initiatives, c'est peut-être quelque chose qui c'est bon, à la fois intéressant, mais peut-être que c'est aussi, plutôt que d'attendre toujours du même endroit les bonnes idées, les bons sujets sur lesquels il faut travailler, peut-être qu'un peu plus regarder les citoyens, un peu plus voir ce qu'ils font, quelles sont leurs préoccupations réelles et profondes. Peut-être qu'on aurait plus de chances de s'en sortir. Au CDR, ça paraît peut-être un risque à prendre, mais au moins, c'est aussi pour nous une opportunité. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire pour introduire.
Julie ?
Bon, bien, bonjour. Donc, c'est Julie, stagiaire donc, auprès de Virginie Offroy au Conseil de développement. Donc, on est ici ce soir pour la deuxième étape de la démarche du Conseil et du groupe de travail sur la participation citoyenne. Donc, comme le précisait Jeanne Renaud, l'objectif en fait, du groupe de travail est de comprendre les mécanismes de la participation locale et de comprendre comment émergent les initiatives citoyennes sur le territoire. Donc pour cela, le groupe de travail a formalisé 4 axes et 3 méthodes. Donc pour petit rappel de ce que disait Jeanne, les axes, c'est susciter et valoriser les initiatives, permettre au plus grand nombre de participer, développer la conscience citoyenne et renouveler les formes de la participation. Donc les méthodes que le groupe de travail met sur pied pour faire émerger cela, c'est donc notamment le référencement des actions grâce au site toutpoitiers.com. La compréhension donc, des mécanismes d'accompagnement des initiatives donc, grâce à la création de réseaux et la mise en lien avec les acteurs locaux. Et donc, l'association du CDR à des événements locaux et donc, pour continuer et solidifier cette mise en réseau. Donc, la première étape de cette démarche, ça a été le carrefour des initiatives citoyennes. Ça nous a permis en fait, de commencer la mobilisation du réseau autour de la problématique commune. Donc la problématique qui est celle... de la participation citoyenne, locale, et peut-être même plus profondément de la participation démocratique. Ce carrefour, en fait, nous a permis déjà une visibilité des actions et des acteurs qui se sont mobilisés ce soir-là, et voilà, pour créer de la synergie. Et on a pu notamment, par l'écoute des témoignages qu'on a recueillis et que je vais vous présenter, on aura pu avoir une meilleure compréhension en fait de l'expérience, de l'engagement, du bénévolat et de la participation. Donc, on avait formalisé 3 murs d'expression, dont les questions étaient donc les 3 questions c'était pourquoi je participe ou pas à la vie de la cité. Donc, quelles sont vos motivations pour vous engager dans des démarches de concertation, des initiatives et des projets collectifs? La deuxième question était les conditions de la participation. Quelles sont les formes propices, les leviers et les erreurs à éviter? Et enfin, donc, quels sont les effets? Donc, ces 3 murs ont pu notamment nous présenter et mettre en exergue les points communs de le désengager et de l'engagement, donc en termes de forme et de bénéfices de la participation, mais aussi en termes de freins et donc de conditions d'exercice de cette participation. Donc on avait pu notamment recueillir des enregistrements audio, donc je vais diffuser le premier, donc qui s'appelle « Votre engagement ».
Et vous-même, quel est votre engagement aujourd'hui ?
Je suis de son groupe, je suis d'origine étrangère, qui habite en France. J'ai des petits engagements comme ça. Et mon idée actuellement, c'est de participer à la création d'une cigale. Donc je viens un peu chercher, parce que pour l'instant, on n'en réussit pas à avoir un groupe, une cigale. Et je venais voir un peu ce qui était proposé ici.
Est-ce que vous pourriez donner votre prénom et me dire quel est votre engagement aujourd'hui ?
Hippo, et je m'engage à ce qu'on veut, je suis ouvert d'esprit. J'ai une vague idée, un vague projet, et puis je suis tombé par hasard sur l'information qui me donnait la tenue de cette réunion, donc je suis venu voir.
Quel est votre projet ?
C'est très vague, ça tourne autour des plantes, le jardinage, les espaces verts, comment est-ce que les gens pourraient se réapproprier leur coin de verdure, et je me rends compte ici qu'il y a plein de personnes qui sont dans la même optique, on dirait.
Alors je m'appelle Loïc, je suis engagé... en tant que salarié, mais je suis engagé quand même au sein de l'association Unicité, qui mobilise des jeunes en service civique.
Donc c'est Isabelle, et donc je m'engage avant de manière associative et plus maintenant de manière professionnelle, on va dire.
Pierre et Lino, et l'engagement que j'ai aujourd'hui, c'est que j'appartiens au Conseil de développement responsable, donc je suis membre actif.
Donc, je m'appelle Anthony, le virus de l'engagement. En ce moment, je ne sais pas si c'est en ce moment, ça fait quand même longtemps que je suis engagé. Moi, je suis engagé dans des associations sportives en tant que bénévole et également de secourisme. Mais là, je me mets un petit peu à ce conseil de développement. Je n'arrête pas de m'engager finalement.
Moi, c'est Alain. Déjà, je suis à la retraite et je reprends un engagement aujourd'hui au niveau du quartier déjà. L'objectif, c'est que bon, je veux occuper un petit peu mon temps de retraite à reprendre les activités sociales que j'ai eu exercées il y a quelques années et que j'avais abandonné pour des raisons professionnelles.
Oui, on m'a demandé d'être là pour être le président, donc j'ai dit oui, puis je suis là, voilà.
C'était il y a combien de temps ?
Il y a 3 ans.
Les formes du virus, c'est un virus qui est véritablement multiforme. Un virus qui vous conduit à être souvent hors de chez vous parce qu'il y a des réunions, parce qu'il y a des activités. C'est un virus qui, finalement, en plus, en général, vous atteint 366 jours sur 366 ou 65 selon les années.
Camille, je suis en service civique à la Fève, en animation radio à Pulsar. Je me lève le matin, pas toujours le matin d'ailleurs, mais j'essaie de me lever le matin des fois et d'aller au travail. Et donc comme ça, je prends le bus et j'arrive à la maison des étudiants qui est fourmille l'activité, l'engagement. Et là, je me retrouve dans un bain où je ne peux que avancer vers l'engagement. Je suis contraint... tel un poisson, tel une truite qui ne peut remonter le courant.
Je m'appelle Olivier et moi je m'engage au sein de ma commune dans l'activité associative. Mais en tant qu'indépendant, je n'adhère pas à une association, c'est simplement je vais d'une association à l'autre et je participe.
Dans plusieurs associations alors ?
Ouais. Oui, je ne suis pas engagé sur une association. J'ai été président d'association, mais c'est une tâche qui devient de plus en plus compliquée et trop réglementée. Il y a de moins en moins de liberté pour agir.
Sébastien, je suis engagé dans le conseil de développement.
Je m'appelle Sandra et je viens pour représenter l'association La Mauvaise Réputation qui vient de naître.
Je m'appelle Stéphane et je fais partie du comité de développement responsable, de la commission de pilotage du développement responsable qui est à l'initiative de cette organisation.
Et je suis engagé... plutôt dans des actions de coopération avec l'Afrique, à travers une association que j'ai contribué à créer qui s'appelle Poitiers Mundu, avec le Tchad, qui est un jumelage en fait entre la ville de Poitiers et la deuxième ville du Tchad qui s'appelle Mundu, qui est située au sud du Tchad. Voilà.
D'accord.
Donc je m'appelle Cécile et je suis engagée avec la mission locale sur un collectif de jeunes pour porter la parole des jeunes.
Voilà, donc le point de départ, en fait, moi je retiendrai dans cet enregistrement pour point de départ les deux premiers témoignages qui en fait affirment être venus au carrefour des initiatives citoyennes ce soir-là pour voir ce qui se proposait en termes de groupe et en termes de groupe à rejoindre, en fait. Donc je me suis fait la remarque qu'en fait, le point de départ, c'est souvent en effet la volonté de participer, de se faire entendre et de participer en fait au monde commun. Donc... on entend bien qu'en fait, chacun a des valeurs personnelles qu'il cherche au final à mettre en commun et à partager avec les autres. Et donc, en fait, les valeurs personnelles sont partagées et même érigées en principe de l'action collective. Donc, on a, en termes de valeurs personnelles, on a des valeurs politiques, mais on va voir que ce sont surtout en fait, les valeurs sociales qui sont très présentes dans l'engagement et qui semblent loin au principe de cet engagement citoyen. Je voulais rebondir aussi du coup sur le témoin qui dit qu'il n'est pas, qu'il est participant mais pas engagé. Donc en fait, ça pose vraiment la question de la limite entre participer et être engagé. Enfin, on va voir que dans les autres enregistrements, on va pouvoir rebondir avec ça et on va pouvoir se poser la question de la participation et de l'engagement. Est-ce que c'est pareil ou pas ?
La première fois que vous avez été frappé par le virus de l'engagement, quels symptômes cela a-t-il eu sur vous ? Hein ? Quelle forme a pris votre premier engagement ?
Aucune idée. Je ne sais pas si... Je ne fais pas de différence entre être engagé ou de ne pas l'être. Est-ce qu'il y a un moment où on est engagé et un moment où on ne l'est pas ? On l'est toujours, on est vivant, on a envie de vivre, on a envie de faire quelque chose. La preuve, même quand on ne fait rien, comme toi... En fait, on est là et on fait quelque chose.
La première fois que je me suis engagé, c'était dans une association de jeunes dans mon village pour créer un espace pour les jeunes parce qu'on se faisait chier et qu'on ne savait pas quoi faire. Et on s'est dit, il faut créer un espace, il y aura des choses à faire. Et là, voilà. Donc je pense que c'est l'ennui qui a fait qu'on s'est engagé finalement.
Je dirais que c'était surtout que j'avais envie de participer en fait à une association, à un groupe de gens qui étaient passionnés par un même thème. Et du coup, voilà, je me suis intéressée à ça. Et puis j'avais aussi, je pense, envie de faire partager des choses avec d'autres. Précisément, c'était une association de terrariophilie. Donc en fait, c'est l'élevage de serpents, lézards, etc.
On va dire que ça a commencé vers l'âge de 12-13 ans quand même. Hein. Donc ça remonte un petit peu, hein, ça remonte un petit peu. Et dès le début, en fait, je me suis engagé, il me semble. Je pense que ce virus s'est propagé dans mon organisme, en fait, dans l'envie de donner aux autres.
Alors, pourquoi et depuis quand avez-vous contracté ce virus de l'engagement ?
Quand est-ce que je me suis engagé pour la première fois ? Je me suis engagé pour la première fois pour au contact de ma ville. En fait, moi, je travaillais sur Paris, je vivais à Buxerolles. Et donc, en intégrant un peu la ville, en ayant un petit peu plus de temps, le retour justement à la vie civile, parce que j'étais militaire en l'occurrence, ça m'a permis de voir les différences qu'il y a entre justement ces grandes villes et la vie militaire et la vie civile avec la petite ville que représente Buxerolles. Et de fait, je me suis dit, bon, il y a des choses qui ne me paraissent pas forcément cohérentes, aussi bien au niveau sociétal qu'économique. Et donc, je me suis dit, éventuellement, intégrer un groupe de travail comme celui-ci, déjà qui permet d'avoir une vision plus exhaustive des situations, parce que justement, le panel de personnes qui représentent ce genre d'instance est très diversifié. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision plus large, d'élargir ses chakras, si je puis dire, et de mieux comprendre les choses, parce qu'on les appréhende un peu plus dans leur globalité.
Voilà, donc je vais rebondir sur ce dernier témoignage. En fait, le monsieur présente assez bien la scission entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et on a assez bien retrouvé ça, en fait, sur les murs d'expression. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs entrées. Donc vous n'allez pas pouvoir voir même ceux qui sont au premier rang, car c'est un peu petit. Donc pourquoi je... Voilà, vous pourrez passer après, éventuellement, ou on pourra même diffuser les documents en format A4. Donc pourquoi est-ce qu'on participe ou pas à la vie de la cité ? Donc j'ai choisi des entrées qui recoupent assez bien trois dimensions de la vie humaine, donc c'est-à-dire les raisons individuelles. On va retrouver les raisons politiques et institutionnelles au sens de la vie dans la cité et donc institutionnelle plutôt au sens de la règle, des faits. Et enfin, donc les valeurs sociales, je les ai différenciées des valeurs politiques, même si on peut les recouper. Mais c'est pas mon champ. Donc moi, je vais plutôt avoir l'explication sociale. Et donc, valeurs sociales plutôt en termes de valeurs et d'espérance qu'on attend pour la société. Donc en fait, cette première carte, elle est plutôt représentative de l'idée que je mentionnais tout d'abord, selon laquelle, en fait, la motivation de l'engagement se situerait dans la vision que nous avons du monde. Donc notamment... Organisation. Donc notamment, on va pouvoir retrouver l'idée que... Même moi, j'y vois rien sur mes cartes. Voilà, on va pouvoir retrouver l'idée qu'on participe pour continuer à espérer un autre monde. On va participer pour défendre une cause qui nous porte. Ou encore, on va retrouver l'idée que participer, c'est inventer une nouvelle démocratie. On va pouvoir aussi avoir l'idée qu'il est nécessaire, par exemple, de faire entendre ceux qui n'ont pas la parole, de défendre des valeurs. Donc voilà, on voit bien qu'en fait, on participe parce qu'on a une idée derrière la tête et qu'au final, on souhaiterait la voir se réaliser. Donc en fait, que ce soit pour partager ou confronter nos idées, nous avons en effet tendance à constituer un groupe ou à rechercher un groupe qu'on pourrait intégrer pour pouvoir agir ensemble sur cette base collective. Donc, dans le premier enregistrement, il y avait la femme qui recherchait notamment à rejoindre un groupe pour une cigale, qui le dit elle-même, elle dit « voilà, je viens rencontrer un groupe auquel je pourrais m'intégrer ». On a aussi dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre, le jeune homme qui dit que dans son village, les jeunes n'avaient rien à faire et donc qui voulait créer un espace pour avoir des choses à faire, justement. Donc voilà, le groupe pour faire des choses, le collectif pour l'action. C'est vraiment la première idée qu'en fait, qui m'est apparue en lisant tous les témoignages de ceux qui étaient présents ce soir-là. Donc le groupe et l'activité collective apparaissent en fait être des conditions propices pour porter la parole de tous et pour agir, surtout pour agir et construire le monde que nous souhaitons. Donc les valeurs individuelles à la base de l'engagement sont celles surtout que l'on partage et qui sont en fait moteurs de l'engagement. Donc l'engagement dans la vie de la cité et au sein du collectif, parce que c'est vrai qu'on peut difficilement parler d'action individuelle menée au sein de la cité. On en reparlera peut-être, on verra. Donc, en conséquence, cela semble pas mal apporter du bonheur hein, aux participants. On va le retrouver plusieurs fois. Donc, par exemple, c'est important, ça permet de se construire personnellement, ça permet d'exister, ça permet de lier des amitiés. Donc, vraiment, le lien social... on le retrouve ici aussi, donc avoir du bonheur et du plaisir. Le lien social est vraiment une source de, a priori, de bonheur, voilà, dans le partage et surtout pour mener ces actions communes. Donc, au contraire, il semble que les désengagés, donc ceux qui ne s'engagent pas, soient motivés en fait par un système assez cloisonné et surtout des conflits entre les différents collectifs et les différentes actions qui sont menées. On retrouvera souvent l'idée que la pluralité des collectifs, des associations, en fait, a plutôt tendance à mettre les associations ou organisations qui œuvrent pour une même cause en conflit, en fait. Elles se poseraient comme antagonistes. Donc, on va retrouver l'idée que... Par exemple, là, hop, voilà. Donc, être dans le conflit ou en désaccord entre les différentes structures, donc ça renvoie au fait de ne pas avoir un niveau de préoccupation homogène. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça aussi qui crée l'engagement et la synergie de l'engagement ? Et aussi, ça renvoie à l'idée que un désengagé semble ne pas participer parce qu'il veut s'extraire d'un système, qui semblerait exiger notre participation. Voilà. Donc, est-ce que participer, c'est rentrer bien dans le système ? Bon, ben, à voir. Donc, au final, pourquoi on participe ou pas ? Donc, il semble qu'on participe en fait à la vie de la cité, surtout pour œuvrer en faveur de notre vision du monde. Et nous sentir en fait utiles au groupe et partager nos valeurs. Donc le troisième enregistrement.
Quels sont les symptômes de l'engagement ? Quels sont vos symptômes, c'est-à-dire quelles formes prennent l'engagement pour vous ?
L'engagement est initié, je dirais, par le fait de regarder autour de soi, de voir ce qui se passe, de se sentir concerné par les choses, de facto de vouloir éventuellement apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir faire évoluer le système et pouvoir justement initier des pistes de solutions, parce que je n'aurais pas la prétention de dire initier des solutions, mais donner des pistes de solutions pour essayer de résoudre des problèmes qui nous sommes importants dans la société.
Voilà, je fais quelque chose, j'apprends plein de choses, ça permet de rencontrer plein de gens, c'est très sympa, quoi. C'est très convivial, on est en lien avec des enfants, avec les parents, avec d'autres accompagnateurs plus âgés souvent, des retraités, donc c'est très sympathique, quoi.
Les symptômes, c'est d'abord vérifier que je ne suis pas là pour donner des leçons et que je suis là pour faire des choses avec d'autres, et d'une part, et que ces choses soient partagées par ceux pour qui elles sont censées exister. Donc c'est vérifier à tout moment qu'on n'est pas dans un rapport donnant-reçu, mais dans un rapport de partage. C'est voilà.
Donc je récolte la parole des jeunes déjà, et le but c'est de la porter aux dirigeants. Donc on écrit un texte, un appel pour rassembler tous les jeunes autour de... Donc le thème choisi c'est arrêter de mettre les jeunes dans des cases en réponse aux dispositifs qui sont créés en ce moment, qui ne nous plaisent pas, ou en tout cas qui sont faits pour les jeunes sans les jeunes. Voilà le problème. Du coup on regroupe les jeunes, on les rencontre, on les recueille leurs paroles et on la diffuse au mieux possible. Voilà.
Alors, je travaille beaucoup dans l'association, je suis fatiguée, ça me prend des heures et des heures, enfin bon, c'est terrible quoi.
Ben, il faut que je fasse connaître le Pédibux, que j'arrive à recruter, si je puis dire, à faire en sorte que les enfants, les parents s'inscrivent pour que les enfants aillent à l'école, reviennent de l'école, que ça soit pas toujours les mêmes parents qui accompagnent, donc qu'on puisse avoir des accompagnateurs qui sont pas forcément des parents en plus, donc il faut essayer de trouver aussi d'autres accompagnateurs extérieurs aux parents, et donc que les parents s'inscrivent. Et moi, je m'occupe effectivement de faire ensuite les plannings, une fois que je sais quand les enfants viennent. Les accompagnateurs, ils me donnent leur planning, leur emploi du temps, ils me disent quand ils peuvent pas accompagner. Et moi, je suis chargée de faire les plannings.
Bah, plusieurs formes, du coup. Donc déjà, venir nous soutenir au quotidien. Donc on aura besoin de bénévoles, voilà.
Voilà, donc comme on l'a pu l'entendre, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, hein, de s'engager. Et donc, en conséquence, ça permet l'acquisition en fait de compétences à la fois personnelles et professionnelles. Donc, sur le mur d'expression, avec la question « Quels sont les effets de la participation ?», on retrouvera beaucoup ça, l'acquisition de compétences. Donc, on retrouvera donc notamment... Donc voilà, tchic. Ah oui. Oui, c'est qu'ici aussi, donc il y a un problème, le mur n'est pas complet. Donc, donc on retrouvera l'idée qu'on acquiert des compétences, que ça nous permet d'acquérir aussi une connaissance des organismes et par exemple de désenclaver la réflexion, voilà, donc de plein de petites expériences en fait personnelles qui permettent d'apprendre sur nous-mêmes et sur le groupe. Donc a priori, l'engagement serait aussi une forme de formation. Formation continue. Donc, ces compétences, donc, elles semblent être les effets de l'engagement au sein d'une action collective ou en faveur d'un collectif, donc, dans lequel donc, les idées sont confrontées et échangées. Cet engagement, en fait, a l'objectif donc, de construire la société, donc, comme je l'ai mentionné sur le premier arbre et comme je l'ai mentionné d'ailleurs d'après les témoignages de tous les membres présents ce soir-là. On participe pour construire la société, mais surtout pour rendre visibles les valeurs, les espérances et les conditions de vie de chacun. Donc on retrouvera beaucoup cette idée que la participation en fait est une manière de montrer, de créer de la visibilité de ce qui se fait, de ce qu'on vit ou de nos expériences. Donc par exemple, on retrouvera l'idée que ça permet de construire la société ensemble, de permettre à chacun d'agir sur le devenir de tous. Donc ça, c'était assez bien pour illustrer l'engagement, en fait, le chacun et le tous, c'est comment ça s'articule. On va retrouver l'idée que ça permet d'améliorer le quotidien de certaines personnes. Donc pour améliorer ce quotidien, il faut d'abord en avoir conscience. La participation permet d'aider et de soutenir, ou encore de donner la parole à tous. Donc cette idée aussi, on la retrouvera beaucoup, l'idée selon laquelle être engagé et participer, c'est aussi donner sa parole. Donc il me semble que oui, dans cet enregistrement aussi, on a un témoin donc, qui affirme qu'on est atteint du syndrome de l'engagement quand on a envie de faire évoluer les choses et quand on veut faire remonter la parole, donc notamment la jeune femme qui œuvre pour la parole des jeunes, donc que ce soit la sienne ou celle des autres. Voilà, donc a priori, si vous avez ces envies-là, c'est que vous êtes malade. Donc, au contraire, donc pour ceux qui n'ont ni ces envies ni l'envie de s'engager tout court, donc a priori en fait, c'est surtout qu'ils se mettent, ils sont en garde contre une certaine forme d'élitisme que la participation produirait, et aussi contre le regret en fait de participer, mais de ne risquer de jamais voir le monde tel qu'on souhaiterait le voir. Donc, on retrouvera cette idée-là. Donc on retrouvera cette idée-là avec notamment des personnes qui regretteraient l'esprit de consommation. Par exemple, voilà, le fait de participer, on est encore un peu plus confronté à l'égoïsme d'autrui ou un peu plus confronté aux règles du jeu qui font qu'on ne peut pas toujours avancer sur ce qu'on voudrait. Et on va retrouver aussi l'idée que participer, ça peut nous amener à désirer le pouvoir ou encore à favoriser l'élitisme. Donc est-ce que ça le fait réellement? A priori, ça dépendrait des objectifs des organisations, des associations, des collectifs eux-mêmes. Hop. Donc, Donc en résumé, quels sont les effets de la participation ? Donc la participation citoyenne semblerait avoir pour effet de faire entendre nos attentes, nos espérances, nos valeurs, et surtout d'œuvrer en leur faveur.
Quel est le plus grand frein, vous pensez, aujourd'hui à l'engagement en France ?
Moi, je crois qu'actuellement, il y a beaucoup d'individualisme. On ne croit pas beaucoup à l'action collective. On croit aux grandes actions, aux grands rassemblements, mais peut-être moins à des groupes, je pense que c'est ça.
Ça tombe bien parce que c'est mon sujet de mon concours d'assistante sociale et c'est la peur en fait. La peur, par exemple, si on est des gens pauvres, de se dire que nous aussi on peut devenir pauvres. Du coup, un peu d'être face à la réalité en fait, c'est ça. La peur de s'engager en fait.
Je pense pas que les gens aient peur. Ils ont peur de l'inconnu, du grand vide de l'espace infini, des choses comme ça. Ça fout la trouille à tout le monde. Mais je pense pas qu'ils aient peur. Non, c'est qu'ils sont dans des. Ils ont des petites habitudes, l'habitude de gagner de l'argent puis de le dépenser tout de suite et puis de regagner de l'argent, de le redépenser. Puis on s'habitue à ça, puis on oublie de vivre. Mais c'est plus des mauvaises habitudes qu'autre chose, je crois.
Le temps qui manque peut-être, l'information aussi, le fait, comme aujourd'hui, les gens parlent de ce qu'ils font, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'il y a à faire en fait, qui ne savent pas qu'il y a des initiatives citoyennes, qu'il y a des choses à faire, qu'on peut s'engager. Donc la désinformation, le temps, je crois que c'est tout. Après, un peu de motivation.
Oui, la motivation semble être importante. Donc pour les conditions, à quelles conditions je participe ou pas. Là, ce qui m'a marqué premièrement, c'était à peu près l'équilibre entre les différentes entrées. Donc en fait, il semble que pour participer, il faut avoir des conditions politiques, individuelles et sociales assez en osmose. On peut quand même noter qu'une majorité de conditions sociales, surtout, doivent être réunies. Donc, les conditions qui reviennent le plus, c'est surtout l'intégration au collectif et le partage des valeurs. Donc, on retrouvera l'idée que par exemple, il est nécessaire de s'intégrer dans un groupe convivial et respectueux, qu'il est nécessaire d'inclure tout le monde, de partager des valeurs avec le groupe, sans quoi la participation ou l'engagement est peut-être moins accentué ou moins favorable. Donc on l'entend notamment dans l'enregistrement où la première personne dit que les personnes qui ne s'engagent pas, c'est qu'elles tombent dans l'individualisme et qu'elles ne croient pas au groupe. Donc a priori, il y a une condition nécessaire pour l'engagement, c'est la foi la foi dans le collectif, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc il est nécessaire en fait surtout de pouvoir évoluer dans des conditions d'écoute sociale et institutionnelle. Sans quoi l'engagement tombe un peu comme une bouteille à la mer. Donc on retrouvera l'idée qu'il est assez nécessaire d'avoir des lois, par exemple, qui permettent aux citoyens de s'exprimer. Donc ça fera la transition avec ce que notre intervenant aura à dire sur toute la partie politique de l'engagement. On va retrouver aussi l'idée, par exemple, notamment les méthodes de communication ou par exemple ne pas pouvoir s'exprimer par le vote blanc qui n'est pas pris en compte. Tout ça, c'est des formes et des structures qui peuvent parfois empêcher des formes de participation. Notamment, les individus ne sont pas toujours informés sur toutes les formes participatives existantes. Et cette idée, on la retrouvera assez souvent, en fait, l'idée de l'information, comment savoir où participer, dans quelles conditions. Donc, les institutions, en fait, doivent pouvoir être en mesure de proposer des conditions et surtout des moyens propices à l'action, en fait. On retrouvera ici l'idée qu'il est nécessaire, par exemple, d'être formé au regard critique. Donc, c'est même pas se former, c'est pouvoir rejoindre un groupe pour être formé, par autrui au regard critique. Ça, c'est pas toujours c'est pas toujours donné pour une personne ou même pour prendre la parole en public, c'est parfois difficile. Et ça, c'est des conditions qui freinent la participation en fait des personnes timides ou tout simplement hésitantes. Donc les désengagés, eux, insistent sur l'idée que l'action citoyenne ne doit pas avoir un objectif élitiste, donc on retrouve notre idée d'élitisme, ni un objectif trop ambitieux. En fait, cela aurait plutôt pour conséquence d'user l'engagé et de profiter surtout du bénévolat au détriment des appuis institutionnels. Donc on retrouvera par exemple l'idée, est-ce qu'on risque pas de bloquer les emplois en s'appuyant trop sur le bénévolat ? où on retrouvera aussi l'idée que s'il y a peu de bénévoles, en fait, ce sont toujours les mêmes engagés qui s'usent à la tâche et qui, au final, ne peuvent plus s'engager par manque de temps ou tout simplement de force. Donc, quelles sont les conditions de notre engagement ? Donc, nous nous engageons, en résumé, nous nous engageons en fait à condition de ne pas être nous-mêmes dans la nécessité. Donc, l'idée de pouvoir s'engager sans galère financière, je cite, hein, sans galère financière, de pouvoir sortir de la précarité et d'assurer les besoins vitaux, on le retrouvera beaucoup dans les conditions aussi de l'engagement. Donc, on ne doit pas être en mesure de manquer de moyens. Et il faut aussi que notre action favorise la cohésion sociale, en fait. On retrouve beaucoup l'idée que, voilà, il faut avoir des projets collectifs, concrets, pouvoir inclure tout le monde. Donc la participation, oui, mais pas au détriment du voisin, a priori. Et donc, en résumé, et pour laisser donc la parole à notre intervenant, la participation a également une dimension politique, dont l'objectif semble être l'exercice et le maintien de la démocratie. Donc on le retrouvera à plusieurs reprises, notamment que participer, c'est participer à la démocratie, c'est inventer une nouvelle démocratie. Et on a aussi l'idée ici, sur ce mur, que participer à la citoyenneté, c'est important parce qu'un État sans citoyens est un État totalitaire. Et donc on retrouve l'idée que participer, c'est le dur lot de notre État de citoyens et d'habitants de la cité, que c'est un peu presque un devoir, voilà. Plus qu'un droit, à la limite. Voilà.
Merci Julie, c'est pas facile de faire cet exercice-là, elle le fait très bien. Julie, je vais faire un peu de pub pour l'Université de Poitiers, elle est étudiante en Master 2, médiation et modèle de développement, qui est basée au département de philosophie de l'Université de l'UFR SHA de l'Université de Poitiers. Virginie, tu enchaînes un petit peu là-dessus ?
Oui, non, juste, donc je remercie effectivement Julie, je pense que c'était impressionnant et de réalité et finalement de tout ce qu'on a pu entendre à l'occasion du Carrefour. Juste peut-être pour vous dire, pour finalement avoir une écoute active ce soir. Donc on vous a mis des formulaires, des petits formulaires, donc toujours avec pour objectif de participer à la construction du travail du Conseil de développement au travers de cette question de la participation citoyenne. Donc on vous a posé quatre questions autour effectivement de l'incitation à la valorisation des initiatives, les formes que doivent peut-être être proposées sur le territoire et puis les moyens pour développer la conscience citoyenne. L'idée c'est que à l'occasion effectivement de l'intervention à la fois de Julie, de ce que vous avez pu entendre et puis de l'intervention de Rémi Lefebvre, vous puissiez proposer des propositions qui seront de toute façon reprises dans le cadre du travail du Conseil de développement. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous préciser en préalable.
Merci Virginie, ça me donne l'occasion de te remercier pour l'organisation de cette soirée, ainsi que Anne Bonnefoy de l'Espace Mendès France, et de remercier l'Espace Mendès France en général pour les nombreuses initiatives que l'on a eues ensemble au nom du Conseil du développement responsable. Moi je suis Dominique Royoux, je suis juste là pour animer ce soir et introduire cette conférence de Rémi Lefebvre. Mais avant de lui passer la parole, peut-être sur ce que vous avez entendu, peut-être quelques réactions. On va pas lancer un débat sur l'engagement ou sur... On a entendu beaucoup de mots-clés hein, ce soir et beaucoup de... Déjà, vous avez appris un nouveau mot, j'espère, le désengagement, les désengagés. Hein. Il y a les motivés, il y a les indignés et il y a aussi les désengagés. Une nouvelle catégorie qui s'est exprimée il y a un mois et demi lors de cette soirée. On a appris beaucoup de mots-clés et on va essayer de faire le lien entre ces formes de l'engagement et ces motivations de l'engagement et la démocratie participative et ou locale sur lequel va s'exprimer Rémi. On peut peut-être prendre quelques minutes si vous vous retrouvez d'abord dans ceux qui ont participé à cette soirée du 6 avril, dans la synthèse qu'en a fait Julie, et puis ceux qui n'ont pas participé peuvent évidemment aussi s'exprimer. On aura un deuxième temps de débat, on aura un grand temps de débat tout à l'heure, après l'exposé de Rémi Lefebvre, qui va durer une quarantaine de minutes, à peu près. C'est ça ? Mais bon, voilà. Est-ce que ça suscite des réactions, des commentaires ? Parce qu'on a, on a effectivement mis côte à côte plusieurs éléments qu'on a essayé de relier. Hein. C'est la participation, l'engagement, la citoyenneté, le fait d'appartenir à un groupe comme levier, mais aussi comme limite pour certains. On a vu, c'était la nuance a été faite sur la dynamique que pouvait apporter la participation à un groupe, mais aussi les limites, le cloisonnement que ça pouvait instaurer. On a vu ça aussi, et c'est ça qui est intéressant de voir que tout est blanc et tout n'est pas blanc ou noir, pardon. L'idée aussi que faire avec d'autres, ça permet d'apprendre en commun. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée, ainsi qu'une autre, désenclaver la réflexion. J'ai bien aimé cette expression également, le fait que la formation, que l'engagement, c'est une sorte de formation continue. Ça rejoint d'ailleurs, on le disait en aparté avec Jam, ça rejoint aussi le thème d'un autre groupe du Conseil du développement qui s'appelle Poitiers Cité Solidaire des Savoirs et qui vise à favoriser et à mettre en valeur, à valoriser les... Bon, alors on n'a pas le terme exact, les savoirs citoyens, les savoirs informels, en tout cas tous ces savoirs qui ne sont pas identifiés au sein de la formation initiale, mais qui sont tellement importants. Et on a un cas d'école qu'on va observer sous plusieurs angles, tout ce qui s'effectue au sein du quartier des Trois Cités et autour du centre culturel des Trois Cités, qui œuvre beaucoup à travers plusieurs logiques, plusieurs supports aussi, plusieurs associations, mais pas que des associations, aussi des initiatives un petit peu informelles, comme les parents éducatifs, les parents qui font de l'accompagnement éducatif, en plus des animateurs du centre, et qui mobilisent des savoirs sans être spécialement formés là-dessus, et c'est pas ça le problème. Des remarques, non ? Allez-y, hein. On a dit que tout à l'heure, il fallait une formation à la prise de parole en public, donc c'est l'occasion de se lancer. En plus, c'est pas un... voilà, je suis content que Bernard Bourdet soit là, parce que en parlant de citoyenneté, si Bernard, à Poitiers, en 2001, je crois, Pierre, tu me coupes si je dis une bêtise, a été citée une charte de la citoyenneté, une des premières chartes en France. C'était Bernard qui en était l'acteur principal avec Jean-Luc Gaboureau. Et je crois que ce que l'on fait ici ce soir, mais aussi d'autres que d'autres font, c'est dans la lignée, dans la continuité de cette ville, de cette agglomération qui s'est toujours interrogée sur les formes diverses de la citoyenneté pour que le plus grand nombre participe. Et c'est bien ça qui nous importe. Bien, ben je vais vous passer la parole. C'est vous qui allez faire la transition entre tout ce que vous avez entendu et ce que vous vouliez dire, ce qui s'annonce déjà à l'écran. Juste, mais vous êtes présenté déjà à l'écran. Vous êtes professeur de sciences politiques à Lille 2, mais vous participez aussi à des activités d'un centre de recherche que vous aurez peut-être l'occasion de citer, très connu sur les questions de citoyenneté, de démocratie. Avec d'autres noms, d'autres références très connues en France. Et vous aussi, vous occupez d'un master pro professionnel, communication et concertation. On va parler aussi des formes de concertation à l'intérieur de votre propos. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Poitiers, d'une capitale régionale à une autre, reliée directement, Lille-Poitiers. Ça tombe très bien. On va vous écouter avec beaucoup d'attention et je pense qu'on va faire un débat intéressant par la suite. À vous la parole.
Bien, ben bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir pour échanger autour d'un de mes domaines de recherche. Donc effectivement, je suis prof de sciences politiques à Lille, à l'Université de Lille, et donc responsable chercheur sur un de mes domaines de recherche, effectivement, depuis une dizaine d'années, c'est la démocratie participative, qui suscite énormément de réflexions en sciences sociales, chez les sociologues, les politistes comme moi, les géographes, les historiens. Il y a énormément de travaux. Il y a même aujourd'hui une revue de sciences sociales qui s'appelle Participation, dont j'ai l'honneur d'être membre du conseil scientifique. Il y a aujourd'hui beaucoup de formations aussi, et je suis responsable d'un master 2 tourné autour des questions de communication et de concertation, hein, puisqu'aujourd'hui à l'université on forme au métier de la participation, hein, il y a des métiers dans les collectivités locales essentiellement, dans les conseils généraux, dans les mairies, dans les associations, dans les fondations, hein. Aujourd'hui il y a une professionnalisation, c'est parfois d'ailleurs ça peut être un problème de la participation, et à mon avis c'est un des enjeux sociétaux, pour être un peu grandiloquent en introduction, qui va être les plus importants à mon avis aujourd'hui, hein, parce que vous le savez, la crise de la démocratie elle est terrible. Hein, on la mesure tous les jours. Bon, c'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'ai entendu. La petite remarque un peu provocante que je voudrais faire, c'est que ce qu'on a entendu avant, c'était un peu le monde de oui-oui, moi j'ai trouvé. C'est-à-dire, en gros, tout le monde participe, la participation c'est génial, c'est un virus. Bah, le problème, c'est que ce virus, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, hein, globalement. Hein, faut quand même remettre les choses en perspective. Aujourd'hui, ceux qui participent, c'est une minorité de la société, une petite minorité, et aujourd'hui cette petite minorité, le risque c'est qu'elle désespère, parce que aujourd'hui ce qui est dominant chez les citoyens, c'est un sentiment d'impuissance, c'est un individualisme que je qualifierais négatif, c'est-à-dire le sentiment que ça sert absolument à rien de participer, mais a fortiori que la politique ne sert à rien parce qu'elle est impuissante. Bon, alors je ne vais pas vous entretenir de ces choses-là ce soir, mais aujourd'hui il y a une crise de la citoyenneté. Elle est incontestable, et justement la démocratie participative, c'est une des réponses à cette crise. Mais il faut bien avoir, faut être juste dans ton point de vue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui cette crise elle est considérable de la démocratie, et que la démocratie participative, c'est une réponse, mais c'est une réponse parfois qui est insatisfaisante, qui est riche d'espoir, mais qui en même temps pose toute une série de problèmes et qui peut aussi parfois avoir des effets pervers. Hein, c'est-à-dire renforcer les inégalités. Et tout à l'heure, j'ai entendu élitisme. Il y a un vrai risque d'élitisme que la démocratie participative, paradoxalement, renforce le caractère très élitiste et oligarchique, hein, je le dis, des démocraties contemporaines, où le pouvoir... parce que moi, c'est ça qui m'intéresse aussi quand je m'intéresse à la démocratie participative, c'est la question du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est mieux partagé aujourd'hui dans notre démocratie ? Alors, je vais essayer de vous donner un petit peu ma réflexion, essayer de prendre un peu de recul par rapport à la démocratie participative, qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, un concept à la mode, surtout ici en Poitou-Charentes, hein, puisque ça a été un des foyers en début des années... je ne vais pas vous faire un dessin, mais ça a été fortement porté ici politiquement, comme une marque aussi, comme un discours, comme un label. Ça suscite parfois des réactions un peu épidermiques, hein, sur le mode, la démocratie participative, c'est un gadget, c'est du populisme, c'est pas ça les vraies questions. Bon, il y a cette réflexion aujourd'hui qui est posée. Moi, la question, c'est de savoir ça sera un des fils conducteurs de ma réflexion, c'est est-ce que la démocratie participative renouvelle vraiment fortement nos systèmes démocratiques ? Moi, ma réponse, c'est, elle va vous paraître peut-être un peu pessimiste d'emblée, mais vous verrez que moi, je suis aussi un avocat de la démocratie participative. Je pense que ça va dans le bon sens, mais enfin, globalement, notre démocratie reste essentiellement représentative. Hein, donc, faut pas se raconter d'histoire. Hein, l'acte citoyen fondateur dans notre système politique, ça reste l'élection. Hein, et notre système démocratique, il est essentiellement fondé sur la délégation que les citoyens font au moment de l'élection à des représentants, des hommes politiques qui ont tendance aujourd'hui à de plus en plus être des professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans les fonctions politiques, dont l'origine sociale tend à être de plus en plus homogène, donc leurs milieux sociaux d'origine. Et donc la démocratie participative, c'est un peu un antidote, hein, à ce système représentatif qui quand même reste fermé et dominant. Bon. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que si démocratie participative il y a, cette démocratie participative reste essentiellement locale. Hein, et donc, ça, il faut bien le mesurer, et même micro-locale. Hein, c'est-à-dire que, essentiellement, les formes de démocratie participative, c'est-à-dire, je vais revenir sur la définition de cette notion, c'est-à-dire toutes ces initiatives, ces procédures qui permettent aux citoyens de participer entre deux élections, eh bien, l'essentiel de ces formes s'opère au niveau local. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il y a un certain nombre de décisions où le citoyen n'a absolument pas son mot à dire entre deux élections, qui sont d'ordre supra-local. Et local, je dirais même micro-local, puisqu'aujourd'hui, la forme essentielle de démocratie participative, la plus courante, c'est les conseils de quartier. Il y en a 1500 en France, il y a 1500 villes qui ont des conseils de quartier. Et ces conseils de quartier, donc, se développent, alors c'est des outils intéressants, se développent essentiellement à l'échelle du quartier, alors que, ça c'est un des paradoxes, la décision, elle, est de plus en plus transférée à un niveau supracommunal, c'est-à-dire intercommunal. C'est-à-dire que, ça c'est un problème aussi de la démocratie participative, c'est le décalage entre le territoire de la décision et le territoire de la participation, de l'offre de participation. Bon, donc ça c'est important, la démocratie participative est essentiellement locale. Troisième enjeu de la démocratie participative, donc ça permet aussi de rebondir avec ce qui était dit précédemment, parce que c'est vrai qu'on a entendu des paroles de citoyens engagés, donc des citoyens qui veulent participer et qui souvent, ça c'est une tendance, c'est apparu dans les entretiens, dans ce qui a été dit, c'est que quand on participe plus. C'est-à-dire qu'en fait, la participation va à la participation. C'est pour ça que, tout à l'heure, c'était évoqué les réunions tous les soirs. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à l'addiction à la participation. Ceux qui participent peu, et ceux qui participent beaucoup, ont tendance à investir tous les lieux nouveaux de participation. Bon. Donc la question que je voudrais poser, qui est fondamentale, c'est la demande sociale de participation. C'est-à-dire, est-ce que les gens veulent vraiment participer ? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et ceux qui participent, qui sont-ils socialement ? Moi, je suis sociologue, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que, et le constat qu'on peut faire, c'est que les milieux populaires, par exemple, sont très peu présents dans le dispositif participatif. C'est un vrai problème, et donc il faut prendre en compte cette dimension. Voilà. Alors, je vais donc proposer quatre parties dans mon propos. D'abord, revenir sur le concept que je qualifie de flou. Je vais ensuite m'intéresser à l'offre de participation et vous proposer un peu une typologie des dispositifs. Et on m'a demandé, lorsque j'ai envoyé mon PowerPoint, d'insister sur peut-être des dispositifs innovants qui renouvellent un peu la participation, ce que je vais faire. Dans une troisième partie, je m'intéresserai aux enjeux et aux limites que je peux rencontrer à travers mes observations. Et puis, dans une quatrième partie, je reviendrai, ce qui permettra de boucler un peu la réflexion et puis lancer le débat sur les publics de la participation et donc et les citoyens qu'on trouve dans ces dispositifs. Alors, première partie, un concept flou. Alors, moi, ma thèse, c'est que la démocratie participative se développe. Il y a ce que certains collègues appellent un impératif participatif, une injonction participative qui me paraît très très forte dans toutes les politiques publiques. Aujourd'hui, il faut faire participer les gens. Il n'y a plus de politiques publiques qui doivent être organisées de manière confinée. Il faut faire appel aux gens. C'est une espèce de norme d'action publique qui est très très forte. Et moi, que je sens, pour passer beaucoup de temps à observer, monter de plus en plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour se légitimer, les politiques publiques doivent passer par le fait d'aller chercher les citoyens, parce que les citoyens ne viennent pas non plus forcément directement, et aussi parce que, ça c'est aussi un paradoxe, la société est de plus en plus illisible, est de plus en plus complexe à comprendre. Les demandes des gens sont difficiles à déchiffrer. Bon, donc, c'est devenu une norme, mais cette norme ne prend parce qu'en fait, il y a un flou sur la définition. La démocratie participative, c'est impossible d'en donner une définition stricte, et c'est justement parce qu'elle est floue qu'elle se développe. Notamment parce que les élus ont parfois une définition très extensive de la démocratie participative, où participer, c'est simplement donner la parole. Alors que dans une conception plus exigeante de la démocratie participative, participer, c'est peser sur les décisions. Hein, c'est-à-dire, c'est pas participer dans le vide, hein, c'est pas simplement s'exprimer. Et la démocratie participative, c'est une démocratie d'expression. Ça, c'est important de s'exprimer, d'exprimer un point de vue, d'exprimer des idées. Mais l'idée, c'est aussi un des critères d'évaluation de la démocratie participative, c'est que ça pèse in fine sur les décisions qui sont prises. Bon, donc j'ai proposé une définition, hein, un ensemble disparate de techniques, de procédures, de démarches aussi diverses que les enquêtes d'utilité publique qui sont très anciennes, le référendum local qui est peu utilisé, les procédures de concertation en matière d'urbanisme ou d'aménagement, les conseils d'enfants, de jeunes, de sages, une pléthore en fait de dispositifs, ou les conseils de quartier qui visent à impliquer, à faire participer les habitants ou les citoyens, j'ajouterai entre deux élections. Alors, donc le contexte que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est évidemment la crise de la représentation, la crise générale de confiance, mais pas seulement à l'égard du politique, mais aussi à l'égard des institutions, hein, à l'égard de son voisin, hein, à l'égard des gens autour de soi. Hein, ça pèse beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi, à travers la démocratie participative, de recréer de la confiance, hein, qui est le préalable au lien social. Bon. Crise de la représentation qui se manifeste par une montée très forte de l'abstention, au niveau local y compris. Hein. Puisque pendant très longtemps, aux élections municipales, les gens participaient, les citoyens participaient. Sauf que depuis maintenant la fin des années 70, à chaque élection municipale, l'abstention progresse. Hein, et cette abstention est considérable aux autres élections locales, hein, comme les élections cantonales ou régionales, hein, que les citoyens ont du mal à identifier, hein, toujours aujourd'hui, alors que la décentralisation date d'il y a 30 ans. Hein, et aujourd'hui, concrètement, si on prend par exemple, puisque le Conseil de développement ici prend cette initiative, vous demandez aujourd'hui aux Français ce qu'ils savent des communautés d'agglos, des communautés de communes ou des communautés urbaines, ils ont une connaissance très faible. Hein. Or, c'est un vrai problème, puisque c'est bien là que les décisions sont prises de plus en plus. Alors, il va y avoir, lors des prochaines élections, on a parlé tout à l'heure, un système de fléchage sur les listes, c'est-à-dire qu'on saura sur les listes les élus municipaux qui siégeront dans les communautés, dans les intercommunalités. Mais aujourd'hui, il y a une opacité considérable du système politique local, donc complexification de l'action publique, développement, il y a une faute de frappe, développement des politiques publiques locales, et donc un paysage institutionnel baroque et opaque. Donc la démocratie participative, c'est aussi une manière de permettre aux citoyens de mieux se situer de ce que certains appellent le millefeuille local, ou un système politique local en tout cas très complexe. Alors il y a un élément de contexte que je voudrais évoquer. C'est toujours quelque chose qui me frappe. Les élus, à mon avis, ne mesurent pas assez. C'est les transformations du rapport au territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos sociétés de plus forte mobilité, alors la mobilité ne concerne pas tout le monde, mais le rapport au territoire des citoyens s'est transformé. Hein, et certains sociologues parlent de déclin du capital d'autochtonie. Hein, le capital d'autochtonie, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait ce qui nous relie au territoire proche. Hein, aujourd'hui, il est de plus en plus courant que, évidemment, on travaille dans un autre endroit que l'endroit où on vit, où on est ses enfants d'ailleurs à l'école dans un autre endroit que l'endroit où on vit, où on est ses loisirs ailleurs. Et donc, il y a parfois une déconnexion entre le lieu de l'ancrage quotidien et les usages qu'on fait de la ville, hein, les usages du territoire et la citoyenneté politique. Bon. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. On crée des conseils de quartier, mais il y a plein de gens pour qui le quartier, ça ne représente rien. Hein, ça peut être des gens d'origine différente. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui se définissent par rapport à la métropole, hein, parce qu'ils vivent dans une métropole, et ils sont pas, ils ont acheté une maison à un endroit, mais ils travaillent dans la ville-centre, et pour eux, la vie politique municipale, ça n'a pas de sens, ça les intéresse pas. Hein. Eux, ce qui les intéresse, c'est la mobilité à l'échelle de la métropole ou de l'intercommunalité. Inversement, vous avez des publics fragiles, et eux qui continuent à se définir par rapport au quartier, hein, parce que c'est leur repère, et qui ont beaucoup de mal à avoir une pensée plus globale à l'échelle de la ville. Donc ça c'est aussi important. Et donc, il y a la question de l'échelle des territoires. Et de comment les formes de participation s'articulent ou non sur ces échelles. Bon, et puis ensuite, et ça a été aussi, c'est apparu aussi dans les extraits tout à l'heure des témoignages qu'on a entendus, c'est qu'il y a de nouvelles attentes à l'égard du politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de citoyens, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils sont très informés, qui refusent d'être simplement des citoyens passifs. Et qui, en fait, veulent aspirent à des formes de participation, veulent prendre leurs choses en main. Ils sont disponibles pour de nouvelles formes d'engagement. Et donc ça, c'est compliqué parce que c'est là où est la demande sociale de participation. Des citoyens qui disent « Moi, je ne veux pas simplement voter tous les 5 ans, ça n'a pas de sens. Je veux compter au quotidien et je veux participer et je suis critique à l'égard des élus. Je suis critique à l'égard de la démocratie. » Et d'ailleurs, un rapport critique à l'égard des élus, moi, ça me semble être un bon symptôme. C'est-à-dire être critique à l'égard de la démocratie, vouloir contrôler les élus, ce qui n'est pas trop présent dans notre culture politique en France, alors que ça l'est beaucoup plus dans les pays scandinaves, par exemple, où le contrôle des représentants est beaucoup plus important, c'est une aspiration légitime. Donc ça c'est important, c'est que moi je pense que la crise de la politique, c'est aussi parce qu'on a des citoyens qui sont plus critiques et qui n'acceptent pas forcément ce qu'ils pouvaient accepter précédemment de leurs élus. Alors, un objectif flou, je disais, de la démocratie participative qui peut en fait se décliner entre, j'ai construit une typologie, 4 grands types d'objectifs. Au fond, la démocratie participative, il y a 4 référentiels possible. Alors, ces référentiels, je les distingue, mais dans les faits, souvent, ils sont mêlés. C'est moi qui les distingue pour l'analyse. Alors, premier référentiel à la démocratie participative, c'est le lien social. Refaire société, produire du vivre ensemble, faire que les gens se rencontrent, faire que ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire que les gens préfèrent discuter le soir entre eux, se former plutôt qu'aller regarder la télé chez eux. La démocratie participative, c'est l'idée de produire de manière un peu institutionnalisée du lien social qui a tendance à s'effriter. Et donc ça, cet objectif, par exemple, il est très présent dans la politique de la ville. Il est très présent dans aussi les dispositifs tournés vers des publics fragiles. Bon, donc ça, c'est le premier objectif. Et finalement, ce que je veux dire, pourquoi je le mets en premier, parce que la démocratie n'est pas forcément au cœur de ce premier objectif. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait affiner les liens entre lien social et démocratie, mais finalement, faire du lien social, ce n'est pas forcément œuvrer directement pour la démocratie. Alors, deuxième philosophie, c'est la philosophie managériale, alors qui est très présente, par exemple, dans les pays anglo-saxons. Qui peut d'ailleurs être une philosophie libérale. C'est pour ça que c'est aussi assez compliqué dans la notion de démocratie participative, c'est qu'en fait, il y a des usages libéraux, progressistes, il y a des usages très différents sur le plan idéologique de ce concept de démocratie participative. Si vous prenez, par exemple, au Brésil, Porto Alegre, la démocratie participative, c'est un outil de redistribution sociale. En Grande-Bretagne, la démocratie participative, c'est un outil de marketing. C'est en fait une forme de sondage. C'est faire des décisions optimales. C'est optimiser les processus décisionnels. Et c'est finalement pas forcément émanciper les citoyens, mais c'est en faire des consommateurs. Dans l'objectif managérial, le citoyen il est perçu comme un usager ou un consommateur de biens publics. Alors, en France, nous, ça nous fait un peu tiquer. Mais dans les pays anglo-saxons, pour eux, ça ne les choque pas du tout de dire qu'un citoyen est consommateur. Tout à l'heure, ça a été évoqué dans les paroles. Mais donc, il y a cette philosophie managériale. Elle peut être déclinée différemment selon les territoires. Alors, cette philosophie managériale, elle est aussi un élément de la conversion des élus à la démocratie participative. Pour beaucoup de travailler sur le rapport des élus à la démocratie participative, les élus qui sont convertis à la démocratie participative, il y en a aussi beaucoup qui sont réticents, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est des élus qui se sont rendus compte que finalement, ça ne remettait pas vraiment en cause leur pouvoir, et que organiser des concertations en amont des projets, avec souvent des moyens importants de communication, ça permettait de mieux faire passer les décisions en aval. Hein. Et donc, si vous voulez, d'un point de vue un peu cynique, la participation, c'est aujourd'hui un management de la décision. Hein. Donc c'est ce que je dis, désamorcer les oppositions, verrouiller les décisions, construire l'acceptabilité des décisions. Bon. Et moi, je suis sociologue, donc j'observe les phénomènes, c'est ce que je constate. Hein. C'est cette instrumentalisation managériale de la participation. Alors, troisième objectif, c'est relégitimer les élus. Alors, le constat qu'on peut faire, qui est un constat, à mon avis, objectif, c'est que la démocratie participative, c'est souvent les élus qui la proposent plus que les citoyens qui la réclament. Hein, c'est-à-dire que ce sont les élus qui proposent de nouveaux dispositifs, qui offrent la participation. À la différence des années 70, où la participation s'était déjà développée, je ne peux pas m'étendre trop longtemps sur l'histoire de la démocratie participative, mais en gros, l'émergence de la démocratie participative, c'est après mai 68, autour du concept d'autogestion dans les années 70, dans les municipalités de gauche, les premiers conseils de quartier, c'est 77. Bon, donc au départ, la démocratie participative, d'ailleurs, c'était un discours très marqué à gauche, alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment... Il n'y a plus vraiment de différence gauche-droite par rapport à la démocratie participative. Bon. Donc aujourd'hui, à la différence des années 70 où il y avait des revendications autogestionnaires autour de la participation, c'est plus les élus qui ont l'impression finalement d'avoir de plus en plus de mal à toucher les habitants, à les associer, hein, et qui vont vers les citoyens à travers de la participation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle participation, c'est essentiellement une offre institutionnelle. Ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que c'est une approche, dans notre jargon, on dit top-down, c'est-à-dire que on s'adresse aux citoyens, et le risque, c'est du coup qu'on n'écoute pas les initiatives qui viennent du bas, hein, qui se manifestent pas forcément par des dispositifs. Hein. Or, la plupart des démarches de démocratie participative, ce sont des démarches institutionnelles que les élus mettent en œuvre parce que ils ont envie de produire de la confiance autour d'eux-mêmes. Et donc, il y a bien cette idée de recréer de la légitimité. Bon. Alors, ils le font d'autant plus que très souvent, ils restent maîtres du jeu, les élus. Et ils restent maîtres du jeu parce que le cadre juridique est faiblement contraignant. Hein. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait « il faut des lois pour protéger les citoyens ». Si vous prenez, par exemple, les conseils de quartier, chaque... un élu peut faire ce qu'il veut avec les conseils de quartier. La loi, elle est hyper floue. Hein. Il peut y avoir un président de conseil de quartier qui peut être élu ou pas. Les collèges, il n'y a pas du tout de règles générales. Et donc finalement, les élus, ils ont la main en fait sur ces dispositifs, comme c'est le cas dans la plupart des dispositifs. Si vous prenez par exemple les budgets participatifs, il n'y a pas de règles juridiques, les jurys citoyens, il n'y en a pas non plus. Les conseils de développement qui ont été rendus obligatoires par la loi Vonnet de 99, j'ai un peu travaillé sur les conseils de développement, il y a des formes très très variées. Alors c'est bien parce que ça permet de s'adapter au territoire, mais le problème c'est que ça ne crée pas de garantie pour aussi protéger le citoyen qui veut participer et qui veut être entendu. Bon. Et donc le risque d'une formule de tout cela, c'est de donner le change sans changer la donne. Hein. C'est donner l'impression d'une ouverture démocratique sans pour autant qu'elle soit effective. Et puis dernière perspective, qui est sans doute la plus ambitieuse, la plus politique, c'est démocratiser la démocratie. Hein. Donc c'est l'idée que la démocratie participative ne sert pas à faire du lien social, ne sert pas à faire des meilleures décisions, ne sert pas à relégitimer les élus, mais elle a une valeur intrinsèque, qui est celle de dire on va fabriquer des meilleurs citoyens ou on va donner aux citoyens, parce que fabriquer, c'est aussi très institutionnel, la possibilité aux citoyens de s'émanciper, d'être alors j'y reviendrai tout à l'heure, et là on en est une stratégie d'empowerment, hein, c'est-à-dire je vais accroître la puissance d'agir des citoyens. Bon, et donc là, moi, j'ai rebondi un petit peu sur des extraits qui étaient sur les tableaux. Hein. Satisfaire son envie de changer les choses, être acteur de sa ville, définir le sens de la vie dans la cité, être responsable de sa condition de citoyen et donc de l'interdépendance avec les concitoyens. Donc ça, c'est des attentes qui ressortent un petit peu du forum qui a lieu il y a quelques semaines. Alors, donc... toujours sur le flou, et je vais un peu accélérer, qu'est-ce que participer veut dire? Donc il y a un flou un peu opportuniste sur la nature de la participation, et au fond on peut distinguer plusieurs niveaux de participation. Hein. Donc, dans les travaux sur la démocratie participative, on a construit des échelles de la participation hein, qui vont de information à codécision, hein, avec toute une série en fait de stades intermédiaires. Le terme participation a tendance à agréger l'ensemble de ces logiques. Or, quand on étudie des dispositifs, il faut essayer de qualifier ces dispositifs au regard de cette échelle. C'est-à-dire, au fond, là, on est sur, par exemple, une réunion publique sur un projet qui est déjà ficelé, c'est de la formation. La consultation, c'est un mode d'écoute sélectif des habitants, mais où il n'y a pas vraiment de retour et où l'élu ne va pas véritablement rendre des comptes sur ce qu'il a décidé de prendre en compte ou pas. La concertation, ça suppose déjà un peu plus d'échange, hein, de retour. Hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Par exemple, il y a certains conseils de développement, je ne sais pas si c'est le cas ici à Poitiers, qui ont mis en place des commissions de suite, hein, c'est-à-dire qui sont saisis d'une question ou s'autosaisissent d'une question, mais ensuite ils demandent aux élus de rendre des comptes sur ce qu'ils ont pris en compte dans le rapport ou pas. Hein, et pas simplement dire, bon, bah, là, le rapport est produit, puis après, on verra ce que ça va devenir. Bon. Ce qui est très, très, très compliqué à mettre en place, hein, parce que c'est la question de la traçabilité de la décision. C'est très difficile d'identifier ce qui, dans la décision finale, doit à ce qu'on a produit. Parce que le conseil de développement, par exemple, va produire un rapport, une analyse, mais il n'a pas le monopole de l'analyse qu'il a produite. Et donc, on peut comment savoir que c'est lui qui a contribué bon, donc ça, c'est très compliqué. Bon. Et puis ensuite, à un stade plus important, mais il faut reconnaître que ce stade, il est rarement observé sur le terrain, il y a le stade de la coproduction ou de la collaboration, voire même de la codécision. Alors, la coproduction et la collaboration, c'est, en amont du projet ou en amont d'une décision, réfléchir collectivement aux options possibles, hein, à ce qui est envisageable de proposer, à avoir une expertise, mais aussi une contre-expertise sur un ensemble de questions, hein, et construire conjointement, à travers des méthodes participatives et délibératives, des propositions qui ensuite, éventuellement, vont être validées politiquement. Et puis, alors, la codécision, là, c'est... la codécision, concrètement, c'est quoi? C'est les budgets participatifs qui sont une forme de codécision, j'y reviendrai tout à l'heure, où, là, les citoyens vont peser directement sur un arbitrage budgétaire, décider collectivement d'une option qui va ensuite être prise en compte et validée politiquement. Bon, voilà. Donc, ça permet quand même de clarifier un petit peu les niveaux de participation. Donc ça, c'est l'échelle. Je ne vais pas détailler là-dessus parce que j'avance sur les concepts. Alors, il y a énormément de concepts qui circulent en démocratie participative. C'est un peu un reproche qu'on peut le faire, c'est qu'il y a un jargon. Il y a énormément des expressions à la mode, alors qui émergent sans arrêt. Que je vais juste effleurer. Bon, alors il y a aussi un vocabulaire de la démocratie participative. Un vocabulaire politique, sociologique. Bon. Donc là, par exemple, il y a une notion moi, qui me paraît très intéressante, alors qui a été en plus beaucoup mobilisée par Ségolène Royal, c'est la notion d'expertise d'usage. Hein. C'est l'idée que le citoyen, il a un certain nombre de savoirs, mais il a un savoir qui est lié aux usages qu'il va faire du territoire, usage qui est lié à ses pratiques sociales. Hein, de mobilité, de consommation, ces pratiques culturelles, etc. Et donc, les dispositifs peuvent s'appuyer sur ce savoir. Parce que, par exemple, le savoir de l'habitant. Hein, le citoyen est un habitant. Alors, le citoyen ne se réduit pas au fait qu'il est habitant, mais en tant qu'habitant, il fait un usage du territoire et donc, il a un certain nombre de savoirs. Hein, ce n'est pas forcément uniquement des besoins, c'est des savoirs, des expertises qu'il peut mettre au pot dans des processus de concertation. Bon. Et donc, dans les formes de jeux qui peuvent se développer entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et les maîtres d'usage, c'est-à-dire les citoyens, hein, c'est-à-dire celui qui commande un projet, celui qui réalise le projet, l'urbaniste, l'architecte, l'entrepreneur, et ceux qui vont impacter, ceux qui vont être impactés par le projet, il y a un jeu qui peut s'instaurer où finalement, des interactions peuvent se développer à partir des savoirs d'usage du citoyen. Bon. Donc il y a un autre concept intéressant, c'est le concept d'espace public partiel, hein, qui est un espace public commun à un groupe, une communauté, qui va prendre la forme d'une association ou d'un collectif. On a ça par exemple dans les grands projets d'aménagement, hein, intermédiaire entre le privé et le public. Il va permettre à un groupe de se constituer en interlocuteur, en sujet politique, et il est... Et donc ça renvoyait à ce que vous disiez tout à l'heure qui me paraît fondamental, c'est le rapport entre le collectif, le groupe et l'engagement. Hein. Le collectif, ça peut être un levier pour s'engager, ça peut être aussi une limite aussi de l'engagement, mais l'importance du concept de collectif. Hein. Je lisais là sur le site avant de venir vous voir ce soir, par exemple, que apparemment, d'après ce que j'ai lu, les budgets participatifs qui sont adossés au conseil de quartier à Poitiers, c'est des petits groupes d'habitants qui décident en fait de prendre en main la question du budget. Donc la question d'un collectif qui à un moment donné qui émerge, alors avec la question de savoir s'il est représentatif ou pas, elle est fondamentale dans les processus de participation. Alors autre concept. Peut-être le plus à la mode aujourd'hui, et très intéressant philosophiquement et sociologiquement, c'est le concept d'empowerment, hein, qui est un concept qui est anglo-saxon, qui a été aussi très fortement développé en Amérique latine, qui est un concept aussi à la fois parfois révolutionnaire, et très progressiste, et parfois néolibéral, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vision néolibérale de l'empowerment, sur le mode responsabilisation, hein, autonomie individuelle. Hein, et donc c'est un concept qui est difficilement traduisible, hein, ça veut dire en gros alors j'ai vu qu'en région Poitou-Charentes ils avaient inventé un concept empouvoirisation ils ont voulu trouver une traduction littérale en fait du concept.
On a un dictionnaire aussi.
Donc concrètement qu'est-ce que c'est d'abord, l'empowerment, ça concerne à la fois des groupes et des individus. Et c'est l'idée qu'on va donner, une puissance d'agir aux citoyens. Donc c'est à la fois un état et un processus. Donc la notion d'apprentissage est fondamentale dans l'empowerment. C'est-à-dire qu'on ne part pas de l'idée que le citoyen a du pouvoir. Enfin, il a du pouvoir au départ, mais on va lui donner plus de pouvoir en le conscientisant, en l'éclairant, en le formant. En évitant aussi que ce savoir soit trop technique. Hein, parce que, évidemment, le problème de la formation et de l'apprentissage, c'est de réduire les enjeux à des questions techniques. Et donc, de les, éventuellement, de les dépolitiser. Bon. Alors, autre notion passionnante, c'est la notion de démocratie délibérative, hein, qui aujourd'hui est de plus en plus utilisée. Une bonne démocratie participative doit être délibérative, c'est-à-dire fondée sur. Le débat contradictoire, un débat inclusif et le plus transparent possible. Hein, donc il y a trois dimensions très importantes dans le modèle délibératif. Il y a la notion d'argumentation. Hein, il faut être capable d'argumenter pour défendre une vision du bien commun. Il y a la notion d'inclusion, donc ça c'est très important. Il faut que la démocratie délibérative soit la plus inclusive possible, c'est-à-dire la plus qu'elle associe des gens, des citoyens les plus variés socialement possible. Et puis la notion de publicité de transparence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sincérité du débat et une transparence dans la procédure du débat. Hein. Donc ça, c'est l'attention aux procédures. Hein. C'est ce que le philosophe Habermas appelle la démocratie procédurale. Hein. Habermas étant un des grands philosophes qui a réfléchi à la question de la démocratie délibérative. Bon. Alors, avec un risque, c'est que, ça c'est fondamental aussi, c'est la question du conflit. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie participative doit être, ou délibérative, doit être consensuelle ? Hein ? Les élus ont peur souvent que les dispositifs participatifs fassent germer du conflit et qu'elles soient conflictuelles. Or, pour moi, le conflit, ça peut être un levier de la participation. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas d'antagonisme, s'il n'y a pas d'alternative, la démocratie s'étiole. Hein, et très souvent, le problème, par exemple, des conseils de quartier qui aujourd'hui sont en crise en France. Énormément, moi, j'ai énormément de villes où les conseils de quartier vivotent. Hein, ils sont un peu léthargiques, mais parce qu'ils sont trop consensuels, les conseils de quartier. On leur demande uniquement de réfléchir à des petites questions du quotidien, alors qui sont souvent importantes, mais du coup, il n'y a pas d'enjeu, hein, il n'y a pas de grain à moudre, il y a trop de consensus, du coup, on s'y ennuie, hein, et du coup, les gens désinvestissent ce type de dispositif. Donc, il ne faut pas là, c'est aussi le citoyen qui parle. Je pense que la démocratie participative, elle peut être aussi conflictuelle. D'ailleurs, certains philosophes disent, prétendent qu'il y a une dimension agonistique de la démocratie, c'est-à-dire, par exemple, une philosophe passionnante comme Chantal Mouffe dit « la démocratie, c'est identifier des différends, des oppositions, et clarifier des oppositions ». Ça, je pense qu'il n'y a pas de raison que la démocratie participative soit forcément une démocratie du consensus. Parce que sinon, elle risque d'être dépolitisante, aussi, la démocratie participative. Alors, donc j'en viens au dispositif que j'ai déjà évoqué, donc c'est pour ça que je vais un peu accélérer. Donc, il y a une grande variété des dispositifs. Il y a un cadre juridique qui est très faiblement contraignant, hein, ce qui donne une grande liberté aux collectivités, mais qui fait que parfois le citoyen n'est pas forcément protégé par rapport aux dispositifs qui sont mis en place. Alors, ces dispositifs, ils peuvent être permanents ou ponctuels, sectoriels ou territoriaux, généralistes ou catégoriels. Bon. En général, alors là, j'ai distingué par type de collectivité. Hein, aujourd'hui, les quatre niveaux de pouvoirs locaux développent des formes de participation. Alors, dans la commune, qui reste quand même le foyer de démocratie participative principale, c'est essentiellement les conseils de quartier, hein, et les instances catégorielles. Dans l'intercommunalité, c'est les conseils de développement. On voit commencer à se développer, dans une quinzaine de départements aujourd'hui, des formes de démocratie participative qui prennent la forme de, par exemple, des conseils de concertation cantonaux, des ateliers citoyens autour d'une politique sectorielle par an, et surtout dans les régions, plus que dans les départements, se développent donc des formes de démocratie participative. Alors ça a beaucoup, le Poitou-Charentes là-dessus a fait école, il y a les budgets participatifs des lycées, il y a les jurys citoyens dont je vais parler tout à l'heure, les comités de ligne TER, il y a toute une série en fait de dispositifs. Alors Jean, peut-être je vais prendre quelques minutes sur un dispositif moi qui me je trouve absolument passionnant, hein, qui est les jurys citoyens, hein, ou conférences de citoyens à distinguer des conférences de consensus. Hein. Bon, mais je ne vais pas rentrer conférences de consensus qui ont un objectif de consensus là assumé. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que ces dispositifs? C'est des dispositifs qu'on qualifie de mini-publics. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur des petits groupes et de sélectionner ces groupes sur une base ou de représentativité statistique, c'est-à-dire on va essayer d'avoir dans les 15 personnes qu'on va rassembler une espèce de photographie miniature de la société. Alors évidemment, c'est difficile avec 15 personnes, mais essayer par exemple qu'il y ait des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes en situation économique difficile, précaire, des chefs d'entreprise, des profs, hein, des ouvriers, etc. Ou bien on va faire du tirage au sort. Alors, tirage au sort qui est une autre technique de constitution des panels. Et le tirage au sort, c'est une technique de constitution, une technique de la démocratie participative qui tend à se développer, hein, qu'on voit se développer dans les conseils de quartier, où il y a certains collèges qui sont désignés au tirage au sort. Et le tirage au sort, c'est une... Alors, il faut rappeler que le tirage au sort, hein, pour beaucoup de philosophes de la démocratie, et comme quelqu'un, par exemple, comme Montesquieu, qui pourtant n'était pas un grand démocrate, c'est l'essence, selon lui, de la démocratie. C'est-à-dire que quelqu'un comme Montesquieu jugeait que l'élection était un principe aristocratique, hein, était un principe oligarchique, qui désignait les meilleurs. Et Montesquieu dit la démocratie, c'est le tirage au sort. Et il y a un philosophe aujourd'hui qui est très discuté aux États-Unis, un peu moins en France, qui s'appelle Jacques Rancière, hein, qui est un philosophe passionnant, qui lui dit, il définit la démocratie, sa définition de la démocratie, elle est passionnante, c'est la démocratie, c'est le régime de n'importe qui. Et lui, il est pour pratiquer le tirage au sort de manière radicale. C'est-à-dire que pour casser la logique de la professionnalisation politique, il demande à ce que dans tous les conseils d'élus, il y ait des élus tirés au sort. Hein, c'est qu'on, un peu comme dans les jurys d'assises, on décide que, par exemple, dans les conseils municipaux, on va tirer au sort des élus et on va tirer au sort des citoyens. Ils vont devenir, ils auront la légitimité des élus. Bon. Et donc le tirage au sort, qui est très utilisé dans les pays scandinaves, permet en fait, alors j'imagine qu'on pourra revenir après sur les risques évidemment que ça peut poser, ça permet de toucher ce qu'on appelle le profane. Hein, le profane, c'est-à-dire le citoyen ordinaire, qui a tendance à être exclu des procédures de participation et avec l'idée de l'associer, parce qu'il a son mot à dire, d'abord il vote, Hein, donc c'est un citoyen qui a la même valeur que tous. Hein, parce que finalement, on pourrait dire, mais tout le monde a le droit de voter. Alors pourquoi tout le monde ne serait pas élu ? Pourquoi tout le monde n'aurait pas vocation à gouverner ? Et donc le tirage au sort, il est au fondement des jurys. Alors, pour avoir suivi plusieurs jurys, c'est passionnant parce que concrètement, comment ça se passe ? Ce panel, on va lui demander de répondre à une question. Alors, on ne va pas lui demander de répondre à une question tout de suite, hein, en 2 heures. On va former le panel sur la question. Hein, c'est-à-dire pour apporter des éléments de connaissance sur cette question pour que le jugement se fasse en connaissance de cause. Alors, une formation pluraliste, hein, contradictoire. Hein, avec par exemple des économistes qui ne sont pas d'accord sur le même sujet. Ou par exemple sur des sujets, parce que c'est souvent sur ces sujets-là qu'il y a des jurys, des sujets scientifiques, les OGM, les nanotechnologies, ces questions-là, que les scientifiques n'arrivent pas à trancher, parce qu'en fait, c'est des questions qui sont indécidables. On va demander aux citoyens ordinaires de donner leur avis. Hein, bon, par exemple, il y a eu des jurys sur l'enfouissement des déchets, sur des questions comme ça très sensibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces jurys souvent produisent des avis robustes, comme on dit. Hein, ils sont intéressants, ils sont capables tout à fait d'identifier assez vite les enjeux. Hein, et ils permettent de renouveler les questions. Alors même si... Concrètement, les jurys n'ont jamais valeur décisionnelle, c'est-à-dire que c'est bien les élus qui, dans un second temps, vont se saisir de la réflexion produite par les jurys et statuer sur la question. Bon, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Bon, les budgets participatifs, je propose de ne pas les traiter. Un mot sur les conseils de quartier, qui est la forme la plus classique de démocratie participative. Alors j'ai écrit l'écueil du NIMBY. Alors qu'est-ce que c'est le NIMBY ? C'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire « not in my backyard », pas dans mon jardin. Hein, c'est souvent le problème des conseils de quartier ou d'ailleurs des concertations locales. C'est-à-dire qu'en fait, ces dispositifs vont être utilisés par des riverains pour défendre des intérêts territoriaux. Alors le syndrome NIMBY dans un conseil de quartier, ça va être par exemple, il y a une piscine dans le quartier A, le quartier B veut une piscine, veut une médiathèque et donc va finalement... Et donc le risque, c'est que les conseils de quartier soient le chambre d'écho ou donnant plus de trop de pouvoir aux intérêts particuliers, hein, et donc avec la difficulté d'articuler les intérêts particuliers des quartiers avec l'intérêt général de la ville. Bon, les conseils de quartier aujourd'hui sont obligatoires dans les villes de plus de 80 000 habitants, mais de fait, aujourd'hui, la moyenne des villes qui ont leurs conseils de quartier, c'est 20 000 habitants. Donc, alors qu'il n'y a pas vraiment d'obligation légale. Et aujourd'hui, les conseils de quartier posent toute une série de problèmes. Alors, sur les collèges, hein, les collèges élus, forces vives, habitants, sont-ils tirés au sort, pas tirés au sort, sont-ils désignés ? Le risque aujourd'hui des conseils de quartier, c'est de reproduire des formes de notabilité. Hein, locale, de micro-notabilité associative, de servir aussi, par exemple, je mets les pieds dans le plat là encore, à distribuer aux militants qui n'étaient pas sur la liste au conseil municipal des mandats de conseil de quartier pour éventuellement préparer leurs futures ambitions politiques, ce qui n'est pas d'ailleurs un mal en soi, parce que c'est aussi une école de formation de cadres municipaux, les conseils de quartier. Mais le risque, c'est le spectre de la démobilisation. Hein, c'est-à-dire que ces conseils de quartier qui restent très souvent consultatifs ont tendance à s'essouffler aujourd'hui. Alors, troisième partie, 5 enjeux de la démocratie participative. La question des inégalités que j'ai évoquée déjà un petit peu, la question du conflit, créer les conditions d'une participation effective, les pièges de la proximité et professionnaliser la participation. Alors, quelques mots sur chacun de ces points. Alors, d'abord, les inégalités. Je suis parti comme ça tout à l'heure, j'ai commencé mon propos sur cette question. Le risque de la démocratie participative, c'est de consacrer les habitués de la participation. Hein, c'est-à-dire de donner du pouvoir à ceux qui l'ont déjà un peu, alors peut-être pas assez, hein, mais qui sont les militants associatifs, les militants syndiqués, donc qui ont une tradition de participation. Hein, on interrogeait les personnes du forum sur comment on participe. Bah, sociologiquement, qu'est-ce qui fait qu'on participe ? Très souvent, On participe parce qu'on est dans une famille où il y avait de la participation, parce qu'on a autour de soi des gens qui participent. Les gens qui participent alors qu'ils n'avaient pas d'attache directe avec la participation, alors ils existent, hein, parce qu'ils existent, et les animateurs, les travailleurs sociaux peuvent produire des vocations à la participation. Hein. Il y a des gens qui n'avaient aucune attache au départ avec la participation, qui peuvent arriver à la participation. Mais globalement, c'est plutôt des gens qui sont déjà éclairés sur les enjeux territoriaux. Pour participer, par exemple, à un conseil de développement, c'est compliqué, c'est pas simple. Il y a parfois des sujets qui, a priori, au départ, peuvent faire peur, qui sont techniques. Les transports, le développement économique, etc. Bon, et donc, or aujourd'hui, alors je voudrais aussi pointer un problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des études et qui veulent valoriser leur capital scolaire dans l'engagement, et donc qui parfois mettent la barre du coup très haut. Hein, et ceux du coup qui n'ont pas fait d'études, alors tout à l'heure c'était dit, l'engagement est une formation, on peut apprendre sur le tas en étant engagé, mais il y a une élévation du niveau d'engagement, souvent sur des questions techniques, qui fait que ça exclut ceux qui a priori voudraient participer et qui n'ont pas a priori les outils cognitifs pour comprendre, pour prendre la parole aussi. Alors ça a été dit tout à l'heure, c'est fondamental. Hein, la parole, pour prendre la parole, pour avoir un sentiment de compétence. Et ce sentiment de compétence, hein, tout à l'heure, Julie disait c'est de la timidité, mais moi, je ne pense pas que ça soit de la timidité. Hein. La timidité, ça existe, mais ce qui est plus fondamental que cela, c'est avoir l'impression qu'on a quelque chose à dire et que ce qu'on a à dire, c'est important. Et or, le sentiment de l'importance de sa parole, il est lié à la vision qu'on a de soi-même, et cette vision qu'on a de soi-même est liée à son capital culturel. Hein, ça, c'est un béaba de la sociologie, mais c'est quand même très important. Or, il faut donner la confiance, il faut que les dispositifs produisent de la confiance. Il faut donner aux gens le sentiment qu'ils ont des choses à dire. Hein, et ça, c'est ce qu'on voit dans les jurys, par exemple. Hein. Dans les jurys citoyens dont je parlais tout à l'heure, les gens en viennent à dire « mais je ne pensais pas que j'allais réussir à avoir un avis et une opinion sur un sujet complexe ». Et ça, c'est super important parce que ça donne, et donc c'est ça aussi l'empowerment, c'est donner la confiance dans ce qu'on peut avoir à dire. Bon. C'est pour ça que la question des inégalités, il faut être très sensible à cette question-là, c'est-à-dire qu'il faut en permanence essayer d'inclure, de voir ce que produisent, par exemple, les effets de scénographie, par exemple. Hein, par exemple, bon, la configuration qu'on a ce soir, elle n'est pas très égalitaire. Hein, on est à la tribune, vous êtes en face, il faudrait être en cercle. Hein, il faudrait... c'est tout, c'est pas une critique. Hein, mais ça, c'est souvent très important. Il faut proscrire les tribunes. Il faut créer les conditions matérielles pour que la parole soit la plus équitable possible. Alors, la question des conflits, j'en ai déjà un peu parlé. Ne pas craindre les conflits, les oppositions. Hein, le risque du consensus émollient. Il faut du grain à moudre. Il ne faut pas hésiter. Le consensus peut être l'horizon, mais pour arriver au consensus, il faut un vrai débat. Hein, il y a des gens qui ont des valeurs idéologiques, hein, et les valeurs idéologiques sont pas forcément conciliables. Hein, on peut aussi ne pas être d'accord. Hein, et donc, il faut accepter de ne pas être d'accord sur des visions du monde, des visions du futur ou du bien commun. Bon, alors créer les conditions d'une participation effective, c'est un peu lié au premier enjeu, donc la mise en scène, la salle, la tribune, les micros, les formes de participation, les rôles qui président, qui animent, qui donnent la parole, qui fait le compte-rendu, la communication, le lien à la population pour les conseils de quartier, etc., etc. Les pièges de la proximité. La proximité, c'est un peu un mot magique aujourd'hui. Tout le monde dit proximité, proximité, comme si c'était une valeur. C'est comme si c'était une valeur indiscutable. Bon, c'est une valeur intéressante et il faut partir de la proximité, mais il faut pas enfermer dans la proximité. Il n'y a pas de raison, par exemple, que je vais lancer un peu le débat. Si vous prenez par exemple l'intercommunalité aujourd'hui. Moi, mais c'est un vrai problème démocratique. Il y a les conseils de développement qui améliorent la mise en débat. Mais les enjeux intercommunaux, les citoyens, on ne leur parle pas du tout de ces enjeux. Hein. On les fait travailler dans le quartier, dans les quartiers, alors que les enjeux aujourd'hui sont de plus en plus à l'échelle des métropoles. Or, les intercommunalités, c'est quand même des instances très fermées, très confinées, très consensuelles, où très souvent gauche et droite s'entendent alors qu'elles ne s'entendent pas au niveau municipal, donc où il y a des jeux de rôle un peu différents. Et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui, par exemple, du niveau de l'échelle de la participation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'on donne le pouvoir aux citoyens uniquement dans le quotidien, alors que des décisions considérables sont prises à un niveau qui n'est pas le niveau municipal. Bon. Enfin, dernier aspect, professionnaliser l'expertise de la participation. Alors là, c'est les dispositifs participatifs, il faut qu'ils soient outillés. Il faut qu'il y ait une ingénierie participative. Un conseil de quartier, par exemple, qui n'a pas d'animateur, qui n'a pas de personne qui le porte, qui l'anime. Des conseils de développement, par exemple, ce qui existe en France, où il n'y a personne qui s'en occupe, où c'est simplement le bénévolat des... puisque les membres des conseils de développement ne sont pas rémunérés, il y a des conseils de développement où il n'y a aucun soutien logistique. Ça, c'est pas possible. Ça peut difficilement fonctionner dans le temps long. Et donc, ça suppose de l'ingénierie, ça suppose... Alors, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes étudiants, et c'est passionnant. C'est essayer de produire des diagnostics, d'être... Alors, avec aussi le risque, c'est de ne pas réduire la démocratie participative à des savoir-faire. Il faut pas étouffer la participation. Il faut aussi permettre aux gens de sortir du cadre, de ne pas définir a priori ce cadre. Donc il faut accompagner, mais pas non plus trop cadrer. Ça, c'est la difficulté. Je rebondis un peu sur les jurys. Par exemple, dans les jurys, le panel, il n'est pas tout seul. Il y a des animateurs qui animent ce panel. Et moi, ce que j'ai pu observer dans les jurys, c'est que les animateurs ont un rôle souvent très très important. Parfois, ils cadrent très fortement le débat, surtout qu'à la fin, il y a la rédaction d'un avis. Et donc... rédiger un avis à 15, je peux vous dire que c'est compliqué. Et donc, du coup, il y a un scribe qui va rédiger, mais du coup, il peut aussi rédiger pour accélérer les choses et forcer un petit peu la délibération à la fin. Voilà. Alors, la conclusion, ça sera en conclusion, donc les publics de la participation, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, rendre les dispositifs plus inclusifs, créer aussi une participation à la carte, parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour que les gens investissent, les citoyens investissent les dispositifs, il faut aussi qu'ils soient disponibles. Bon, ça, c'est d'ailleurs aussi un souci, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes âgées, ce qui est très bien dans les dispositifs participatifs, parce qu'elles ont du temps et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas le temps de participer parce que dans les familles, les couples sont biactifs, parce qu'aujourd'hui, les pères veulent jouer leur rôle de parents, donc les gens ont beaucoup de choses à faire. Et donc, par exemple, s'engager pour un conseil de quartier, c'est parfois une décision trop engageante pour quelqu'un. Les gens voudraient participer, par exemple, ponctuellement, quelques week-ends par an. Donc, il faut essayer de s'adapter au rythme de vie et aux attentes des citoyens. Donc, c'est ça que j'appelle participation à la carte et l'adaptation au rythme de vie. Voilà. Donc, ça, sinon, j'avais repris des éléments qui apparaissaient sur les tableaux, dans le forum, qui, à mon avis, sont essentiels dans la condition de la participation, la formation, l'information, la précarité. C'est vrai, quand on est précaire, c'est très difficile de participer. Quand on ne sait pas où on va aller, où on va se retrouver dans un mois, comment on va finir le mois, c'est difficile de demander à ces gens-là de se projeter dans Poitiers 2030. Voilà. Et pourtant, ils ont sans doute des choses à dire très importantes sur Poitiers 2030. Mais c'est compliqué. Donc ça, c'est toute la question de permettre aux gens de participer. Et je répète, les gens ont des choses à dire lorsqu'on leur donne la parole. Voilà. Et puis, je terminerai là-dessus sur le militantisme, puisque tout à l'heure, on disait qu'est-ce que c'est participer, qu'est-ce que c'est être engagé. Aujourd'hui, il y a une transformation du militantisme. Il y a un militantisme qui est plus ponctuel, plus pragmatique, plus flexible. Il y a une crise aussi du militantisme partisan, syndical. Et donc, aujourd'hui, il y a finalement des gens qui veulent participer, qui ne veulent pas aller dans des structures traditionnelles, qui voudraient se tourner vers la démocratie participative. Et donc, il faut, à mon avis, donner confiance à ces forces vives, à ces citoyens qui veulent participer activement. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Rémi de ce panorama très, très exhaustif sur les conditions d'exercice de la démocratie participative. Puisque vous pouvez d'ailleurs retrouver, c'est la dernière diapo peut-être, retrouver la tonalité de ce que vous avez dit dans un article que vous avez publié il y a pas longtemps, que je vous conseille. Hein. D'abord, ça me permet aussi de faire un lien avec le site métropolitique.eu, comme Europe, et qui vous avez signé un article qui résume un peu, enfin, qui reprend une partie de ce que vous avez dit, hein, qui s'appelle la démocratie participative absorbée par le système politique local. Enfin, vous le trouverez, il fait 4 pages sur cette revue en ligne qui est d'ailleurs une revue.
Tout le monde l'a sur son siège.
Ah, tout le monde l'a sur son siège, d'accord. Ceux qui sont devant, peut-être. Mais la démocratie, c'est inégalitaire, on a dit. Donc il y a ceux qui sont devant, puis ceux qui sont derrière. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de places devant aussi, ceux qui sont derrière. Qui sont vides. Et donc, du coup, on ne prend pas les documents.
Il fallait aller devant.
Et puis, puisque Rémi a cité Jacques Rancière, il y a un débat qui m'a frappé, moi, récemment, un débat entre Jacques Rancière et Pierre Rosanvallon dans Le Monde du mardi 7 mai, sur les conditions nouvelles de la démocratie. Des questions vraiment en 2 pages, dans la page décryptage débat du Monde, passionnante, si vous avez l'occasion de retrouver sur le site du Monde ou dans votre accumulation du Monde papier. Merci de cette intervention. On va passer au débat. Vous avez... C'est très, très large. Hein. On a traité des objectifs qui sont, on l'a vu, à la fois larges et traditionnels, puisqu'on est reparti du lien social qu'on avait beaucoup évoqué d'ailleurs dans les murs d'expression tout à l'heure. Mais pour l'élargir énormément, ces objectifs sur les conditions d'émancipation, on a traité des typologies, hein, des formes variées. D'ailleurs, peut-être qu'on n'en a pas tant que ça, de formes de participation. Enfin, on est quand même, on entend parler, mais c'est bien que vous en ayez fait un peu l'évaluation, toujours des mêmes processus, hein, des mêmes typologies, mais c'est peut-être une question en soi d'ailleurs, hein, ça, le fait qu'on ne soit pas capable forcément de renouveler énormément ces formes de la participation. On a parlé aussi, et c'est peut-être une question qui intéressera plusieurs personnes dans la salle, des modes de faire, hein, c'était votre troisième partie, et enfin des publics. On peut prendre, bien sûr, ces différentes entrées ou en prendre d'autres, mais comme on a une typologie sous la main, peut-être c'est plus facile de poser des questions à partir et d'échanger à partir de ces catégories-là. J'aurais juste envie d'en vous en poser une d'entrée, mais ça, à plusieurs moments, vous avez dit « il faut ». C'est qui le « il » dont vous parlez à plusieurs reprises ?« Il faut participer », etc. On nous demande... Il y a plusieurs expressions un peu impersonnelles comme ça que vous avez, ou des pronoms indéterminés. Est-ce que vous... C'est quoi ? C'est l'État ? Les conditions sociales collectives, quels sont qu'est-ce qui définit ce il ou ce on ? C'est bon, il y en a.
Je réponds tout de suite à cette question. C'est bien de m'alerter un peu comme ça sur un tic de langage. Quand je dis il faut, c'est que je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il y a une injonction, il y a un impératif. Ça, c'est devenu une espèce de norme. Hein. C'est-à-dire, il faut. Je suis très très frappé. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de loi qui oblige. Hein. Il y a l'intériorisation d'une espèce de nouvelle manière de faire. Hein. Voilà. Donc, et c'est pour ça. Et moi, je pense qu'elle monte encore très 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 fort. Et que le risque, c'est que alors c'est par ailleurs, c'est pas parce qu'il y a il faut que derrière il y a vraiment démocratisation. Hein. Souvent, il y a un décalage entre la norme et puis le résultat. C'est-à-dire que et donc du coup, bah, ça crée aussi beaucoup de dissonances ou de désaccords parce que les gens ont l'impression les citoyens, on leur demande de participer, on leur propose de participer, ils participent de plus en enfin. Une offre de participation de plus en plus importante. Et puis, les processus décisionnels, malgré tout, ils bougent quand même pas beaucoup. Hein, et donc, il y a une hypothèse qu'on peut faire. Le risque de la démocratie participative, c'est que ça soit une machine à produire de la déception, du désenchantement. il y en a déjà beaucoup de désenchantement. Alors, que ça use aussi les citoyens les plus actifs. C'est-à-dire que ils ont le virus, ils participent, mais il faudrait pas... Et donc, on est face à un système aussi qui est un peu bloqué. Le système politique est un peu bloqué. Alors, système aussi politique de plus en plus complexe, où en plus, les décisions, on ne sait plus vraiment qui les prend aussi. Parce que c'est ça aussi la question. C'est aujourd'hui, avec la mondialisation, avec concrètement, où est la souveraineté, hein ? La souveraineté, c'est une question politique essentielle.
Merci. Alors, démocratiser le dialogue. Merci de poser la première question.
Merci. Bonjour. Au festival Dire le Monde d'Arc-en-Ciel Théâtre qui se passe à Saintes, il s'est passé au mois de mars.
Ouais, en mars.
On a été interrogé sur ces notions-là et une des questions c'était la démocratie directe existe-t-elle ? Donc je voulais savoir quels étaient ces deux concepts, démocratie participative, directe, c'était la même chose ? Est-ce qu'il y avait des nuances ? Voilà, si je pouvais avoir des précisions.
Est-ce que sur ces questions un peu fondamentales, il y a d'autres questions pour essayer de regrouper sur le même thème ? Est-ce que une question un peu conceptuelle, mais tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, c'est des expressions qu'on entend très souvent. Bon, ça viendra peut-être à vous, Rémi.
Alors, vaste question, parce que là, ça nous... Déjà, démocratie participative, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un peu... étonnant parce que c'est un oxymore quoi. La démocratie participative c'est redondant ou oxymorique, c'est-à-dire une démocratie. Alors en fait on a construit ce concept parce que la démocratie est représentative et qu'au fond dans et donc la démocratie représentative, là je renvoie à Rancière, Montesquieu, mais aussi aux Grecs, hein. Pour les Grecs, si les Grecs observaient notre démocratie, ils diraient mais c'est pas du tout une démocratie. C'est un système oligarchique. Hein. Les Grecs pratiquaient le tirage au sort. Alors il faut quand même nuancer dans des petites communautés. Le tirage au sort, c'était les femmes en étaient exclues, les esclaves, et c'était évidemment des gens. Les citoyens étaient déjà a priori éclairés. Donc il faut pas mythifier l'expérience grecque. Mais longtemps on a pensé que la démocratie représentative était naturelle. Hein, c'était naturel que parce que les questions sont trop techniques, parce qu'on peut quand même pas donner le pouvoir à des incompétents. Hein, c'est pas moi qui parle. D'ailleurs, au passage, celui qui a défendu l'élection en France au moment de la Révolution française, l'abbé Seyès, on a ses discours. Quand il a fait voter le principe de l'élection sous la Révolution française, il a dit, mais il s'adressait en fait aux députés, il dit, mais l'élection, c'est un principe aristocratique. Hein. Il l'a défendu comme tel, il a dit, il faut domestiquer le pouvoir du peuple. Et donc domestiquer le pouvoir du peuple par l'élection. Hein, donc il faut se rappeler que philosophiquement, l'élection n'a pas été pensée pour ses vertus démocratiques, mais pour ses vertus aristocratiques. Bon, et donc... ce système aujourd'hui, et pour moi la question de la professionnalisation politique, elle est au cœur. Enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on est dans un système politique professionnalisé, où en fait ceux qui exercent les fonctions politiques sont des acteurs spécialisés, alors de moins en moins représentatifs. Ça c'est très inquiétant. Hein. Moi je travaille beaucoup sur les élus. On a de plus en plus aujourd'hui de jeunes élus qui étaient avant collaborateurs d'élus, assistants parlementaires. Il y a de moins en moins, alors il y a peu de salariés du privé, plus du tout de milieu populaire, très très peu, il n'y a plus un seul député d'origine populaire à l'Assemblée aujourd'hui. On est dans un fonctionnement de plus en plus endogamique du jeu politique. Et donc là, on est très très loin, alors, on est dans un système de plus en plus représentatif qui n'est pas viable à mon avis, hein. Ça ne pourra pas... c'est un vrai problème. C'est-à-dire que du coup, il y a plus d'identification entre les citoyens et les élus, une identification sociale. Il faut quand même s'identifier à des gens dont la confiance, elle prend pour ressort l'identification. Si les citoyens ont l'impression que les élus appartiennent à un monde de puissants éloignés de leurs préoccupations, ils ne peuvent pas déléguer leur pouvoir à ces élus. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mécanisme de représentation, il est fondé sur la confiance. Et la confiance, elle suppose un minimum de représentation miroir, comme on dit. Les représentants et les représentés ne peuvent pas être trop, excessivement décalés. Alors, est-ce que la démocratie directe... Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie directe ? Est-ce que la démocratie directe, c'est la Suisse, le référendum, d'ailleurs qu'il y a un système qui est en crise ? C'est compliqué. Est-ce que la démocratie directe, c'est dans une version politique, ça pourrait être l'autogestion ? C'est-à-dire des collectifs qui s'organisent et qui prennent le pouvoir. Donc c'est la démocratie d'entreprise. Des expériences de démocratie directe contemporaine, il n'y en a pas, mais je pense qu'il faut le distinguer de participation. La démocratie directe, elle suppose la suppression de l'élection. La démocratie participative, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle est complémentaire de la démocratie représentative. Voilà, la démocratie directe, elle est radicale, c'est-à-dire qu'elle supposerait que aucune décision qui affecte les citoyens ne serait prise sans qu'ils en soient responsables. Bon, ce qui était un peu la philosophie de Rousseau, hein. Rousseau qui était contre l'élection aussi, hein. Rousseau, le contrat social, c'est pas du tout l'élection, hein. Rousseau, sa conception philosophique de la démocratie, c'est on arrive à un consensus. C'est-à-dire qu'on arrive à comme il croyait, alors peut-être idéalement, à l'intérêt général, il pensait que on arrive à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt de tous, et donc tout le monde y adhère. Bon, alors, sauf que Rousseau n'a jamais véritablement outillé sa philosophie. C'est-à-dire qu'il en restait au principe. Or, le problème de la démocratie, c'est aussi une question technique, hein. C'est-à-dire comment on organise la démocratie, c'est aussi une question fondamentale.
France.
Je voudrais rajouter un petit bout sur les élus, parce que je crois vraiment. Avec ce que je pensais de l'éducation nationale dans le temps, c'était les corps sociaux qui avaient inventé vraiment l'appartenance aux jeunesses. C'est-à-dire que vraiment, ils se reproduisaient carrément entre eux. C'est vraiment très significatif. Même les médecins ne le peuvent plus, même un certain nombre de catégories ne peuvent plus. Mais là, on a deux grands piliers de notre système qui fait ça. On a quand même, avant Ségolène Royal d'ailleurs, participer, parce que c'est la participation classique de la démocratie, en région, puisque la région était une terre de mission à cette époque, on a participé à l'élaboration. Il y avait des missions. Il y a une mission économique, une mission, et dans laquelle la participation de la société civile était reconnue. Donc, y compris sur la 6e République, les tenants de la 6e République, on ne voit pas beaucoup la présence de la participation de la société civile. Moi, je suis complètement étonné qu'on nous dise qu'il en faut une sans participation de la société civile. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arriver à un système encore plus élitiste que celui qu'il y avait auparavant. Donc, on pouvait aller dans les contrats de projet, on pouvait aller dans les contrats de territoire. On a fortement participé dans les années 80-90. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on était local, expérimental, toujours expérimental. Vous pourriez refaire 10 fois la même expérimentation. Et puis, vous étiez supplétif. Et ça, la société civile française est caractérisée par ça, local, expérimental, supplétif. Le reste, si vous voulez avoir du pouvoir, il faut vous faire élire. On nous renvoie toujours le fait qu'il faut nous faire élire. Donc, on peut pas être, on peut être président normal, mais on peut pas être citoyen normal. C'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui, de fait, à un moment donné, trouve un lieu pour l'exprimer. Et il y a de moins en moins de gens, à mon sens, qui s'expriment à tel point que, lorsque je suis allé au Forum mondial social, les jeunes, maintenant, 30 ans, réinventent le théâtre. Il faut refaire du théâtre. Allez, bougez-vous, et voilà. Parce que là, il va se passer quelque chose. Mais parler, non. Déjà, on ne veut plus parler. C'est ce que dit un peu Michel Serres dans La Petite Poussette. J'avais présomption de connaissances quand je rentrais dans mon cours. Maintenant, ils en savent plus que moi. Ils savent comment je vais faire mon cours. Donc, on en est là. Et donc, c'est vrai que sur la façon d'organiser la parole, de la provoquer et tout, il faut certainement donner un objectif dans lequel l'élu se retire, où l'administration se retire. C'est, bah, je prends toujours cet exemple de la terre existe à marée basse quand la mer se retire. Eh bien, l'élu, il est élu, bien pour lui, il est reconnu par la société. Sa grande force, c'est de savoir se retirer, apprendre à se retirer pour que les choses se fassent, en partie, bien sûr, sans lui, se décident pas sans lui, mais se fassent sans lui. Et c'est ça qui me paraît très, très difficile à organiser, parce que, y compris pour... moi, j'étais délégué syndical, c'était pareil, hein, je ne jette pas de pierre, mais on est à ce moment de la démocratie, à ce moment-là, où on a des problèmes suffisamment importants dans les inégalités, par exemple, sur les inégalités, sur l'accès aux droits de tous à manger, à se loger, à travailler et tout. On a assez de problèmes de fond pour pouvoir avoir des réponses collectives à ça. Je crois qu'on est à un moment vraiment intéressant, parce que si on repose ces questions-là et qu'on cherche la solution, qu'on arrivera à remettre du coup tout le monde dans le coup, quoi. Je crois que c'est, si on reprend sur les droits fondamentaux.
Un commentaire ?
Oui, enfin, c'était pas une question. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'en France, le gros problème, ça tient à la sacralisation du suffrage universel, de l'État. C'est-à-dire que on est dans un modèle en France étatiste où la société civile, où l'État s'est toujours perçu en surplomb de la société civile. Et c'est vrai que comme les élus se parent de la légitimité du pouvoir de l'État, ils ont tendance finalement à reproduire ce fonctionnement. Donc c'est vrai que ce fonctionnement, il n'est pas du tout adapté, ce fonctionnement vertical, à une société plus horizontale, plus en réseau, ou en plus aujourd'hui qui est, parce qu'on parlait de, je disais, technique de démocratie où il y a Internet qui crée quand même, qui bouleverse quand même le rapport à l'information. Enfin, chez les jeunes, ça c'est quand même, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'on veut plus simplement, on va pas écouter l'information le 20h le soir. On va chercher son information, on produit son information. Bon. Et donc, en fait, le problème c'est que les élus, enfin les élus, pas tous les élus, mais la représentation nationale est finalement aussi arc-boutée sur des modes de faire un peu traditionnels. Et c'est vrai que... Mais je pense aussi que tous les élus ne sont pas comme ça, parce qu'il y a des élus quand même qui sont moteurs dans la participation. Il y en a dans tous les territoires qui ont compris qu'il y avait des enjeux, etc. Mais je pense aussi que ce qui est un peu tragique chez les élus, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir de moins en moins de pouvoir et qu'en plus on leur demande de le partager. Le peu de pouvoir qui leur reste. Et ça, donc ça, c'est bon. Mais au-delà, hein, moi, je pense que sur la professionnalisation, vous parliez des institutions. C'est vrai que moi, je ne crois pas que notre système politique va simplement se transformer par une nouvelle constitution. C'est pas simplement des nouvelles règles, c'est aussi de nouvelles habitudes, une nouvelle culture. Hein, et voilà, ça, c'est un peu l'enjeu aussi de la démocratie participative.
Alors, il y a d'abord Madame, David dans le fond, Monsieur Denstein devant ensuite.
Alors, moi, je voudrais juste apporter un éclairage un petit peu différent, enfin d'un autre champ. En fait, je suis psychologue et quand j'entends parler de processus d'identification qui sont nécessaires pour redonner confiance dans la politique, quand j'entends parler du fait que on pensait que l'intérêt de tous, l'intérêt général, agir pour l'intérêt général, ben, tout le monde devrait y adhérer puisque voilà, c'est l'intérêt général. Eh bien, ça met en cause des dimensions psychologiques qui me semblent, enfin qui moi en tout cas me passionnent dans justement l'analyse que je peux faire de ce désinvestissement de la vie collective, hein, de son organisation. Et donc, je prône une transversalité dans les approches. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, que je ne vais pas développer ici, mais qui me semblent importantes pour pouvoir toucher des personnes qui ne sont pas investies dans une pensée sur le collectif. Soit parce qu'elles n'y ont pas pensé, elles ne sont pas outillées par leurs études pour le faire, mais j'ai l'expérience, une expérience qui me permet de dire que quand on donne aux gens des outils pour penser, non seulement ils s'emparent de ces outils-là, mais en plus ils le font avec plaisir, et ça fait boule de neige. Donc voilà, je ne connais pas du tout les gens qui s'occupent du Conseil de développement durable. J'aspire à les connaître éventuellement pour pouvoir discuter plus précisément de cette question.
Venez rejoindre ce collectif, ça sera la conclusion de Jam tout à l'heure. Madame, donc c'est un témoignage, madame. Peut-être vous aurez l'occasion de revenir sur ce que vous entendez par transversalité, parce que... Alors, je vais prendre plusieurs questions, peut-être là-bas, David, et puis on va prendre un collectif de questions, parce qu'il y en a beaucoup, là. Allez-y, vas-y.
Bonsoir, merci pour votre intervention percutante et plaisante, et interrogeante, on le voit. On l'a dit, les formes de démocratie instituées et habituelles que nous connaissons, que ce soit démocratie élective, sociales ou associatives, sont plutôt sur des tendances à une relative désaffection, ou en tout cas une moins forte adhésion des citoyens, des travailleurs, des électeurs. On a plutôt des indicateurs décroissants à ce niveau-là. Sur les dernières échéances électorales, à contrario, on s'extasie ou on fait mine de s'extasier sur les bruissements croissants de la blogosphère, la twittosphère, bref, tous les supports de communication, d'échange dématérialisés. Vous faites une brève référence sur votre dernière intervention à Internet. Est-ce que vous pensez que, justement, ces nouveaux espaces, ces nouveaux outils, ces nouveaux rapports au temps, et avec les nouvelles possibilités de relations entre nous que cela génère, c'est riche de promesses ou déjà actuellement de pratiques nouvelles de démocratie, ou c'est surtout riche de mirages. Enfin voilà, est-ce que vous avez déjà un regard là-dessus? Merci.
Merci. Alors on va prendre plusieurs questions. Monsieur Edelstein devant, Virginie s'il te plaît. Après il y aura Yves et après Pierre, je pense.
Merci. Bonsoir. Donc, moi, je voulais apporter mon témoignage en tant qu'élu, justement. Et donc, le cas pratique. Je dirais que, avec différents supports, nous, on essaie de faire que les gens puissent s'exprimer. On tient régulièrement des réunions publiques. On a un journal d'information tous les trimestres. On fait des permanences toutes les semaines. Et. En plus, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la communication par Internet, c'est vraiment très facile. Il y a l'adresse mail, on peut envoyer un mail, c'est très rapide. Et pourtant, je dirais que, à notre grand désespoir, on n'a pas beaucoup de retours, ou de commentaires, ou de critiques, ou de propositions. Moi, je suis devenu élu, je dirais, sur le tard, hein, à la cinquantaine, il y a 10 ans, 12 ans. Et bon, je suis devenu élu pour faire avancer ma commune, pour faire avancer les choses. Donc j'aimerais aussi avoir des retours de propositions des citoyens. Et avec tout ce que je vous ai dit précédemment, eh ben, il n'y a pas le retour qu'on pourrait attendre. Alors j'ose pas imaginer que tout ce qu'on décide leur plaît bien, parce qu'il y a forcément des choses qui pourraient être améliorées ou qui ne plaisent pas. Mais à part les lettres ou les mails qui consistent à nous dire... à tel endroit, j'ai des brins d'herbe devant chez moi, ou des choses comme ça. On n'a pas vraiment d'idées sur les projets, les grands projets ou les grandes idées. Alors, est-ce que ça, c'est propre à beaucoup de collectivités? Est-ce que vous avez un recul qui peut nous donner des informations là-dessus? Voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'est ma vie au quotidien depuis 12 ans maintenant en tant qu'élu. Hein?
Attentif à votre question. Yves, peut-être maintenant. Yves, après il y aura Pierre et après Jean-Denis.
Merci. Il y a aussi Stéphane devant moi qui demande la parole. Donc voilà. Donc Yves Jean, géographe, et en préambule, j'ai créé avec Dominique Royou en 2000 un master d'analyse spatiale et de prospective territoriale, master professionnel qui, comme le tien, forme des futurs chargés de mission dont la finalité c'était d'essayer de leur permettre d'aider au développement de la démocratie participative, utopie, mais faut bien qu'on ait un peu d'utopie. Certains sont ici d'ailleurs. Alors trois remarques et puis une interrogation. Une première remarque pour... alors j'ai vraiment apprécié ton intervention, mais peut-être pour pondérer un peu les choses, parce que je suis un vieux monsieur. Rappelons-nous qu'avant les lois de décentralisation, l'État seul décidait à Paris, dans quelques ministères, de toutes les décisions de politique publique et que les élus n'avaient aucun pouvoir. Que ces lois de décentralisation reposaient, mobilisaient la notion de proximité géographique, et c'était un pari, et 30 ans plus tard, on peut regarder où nous en sommes de ce pari, mais je rappelle le pari, c'était de rapprocher l'habitant des processus de décision. On transfère l'urbanisme à la commune, on transfère des responsabilités d'action sociale au département et on rapproche l'habitant, le citoyen, je préfère dire l'habitant, parce que tout le monde n'est peut-être pas citoyen, objet de débat, on rapproche l'habitant des centres de décision. Sur l'hypothèse que la proximité géographique sera vertueuse pour faire de la politique autrement. Et la question qui nous était posée à cette époque-là, c'était de faire de la politique autrement, qui est la question que tu soulèves. Je ne vais pas développer par rapport à cela, mais c'était bien cela l'enjeu. Quand on fait le bilan de 30 ans de décentralisation, c'est un bilan qui n'est pas totalement négatif, puisque les projets éducatifs locaux, pour ne prendre que cet exemple, réunissent 40-50 acteurs, des parents, des instituts, la CAF, enfin voilà, une multitude de partenaires qui élaborent à l'échelle locale de l'action publique. Et 30 ans plus tard, ce n'est plus quelques hauts fonctionnaires à Paris qui décident de tout, mais on a des processus de décision qui sont décentralisés. Alors on sait bien en sciences politiques, c'est pas le géographe qui va dire cela aux politistes, qu'on sait où sont pris et qui prennent les décisions, on sait qui met sur l'agenda, l'ordre du jour, et on voit bien que les élus leaders jouent un rôle majeur, que les présidents de région, présidents de conseils généraux, que les maires jouent un rôle majeur, et que le conseiller municipal lambda, c'est pas lui qui met sur l'agenda les questions. Donc on sait qui il faut convaincre, en tout cas on essaie de dire à nos étudiants qui il faut convaincre pour faire évoluer les politiques locales. Et quand on regarde le bilan de 30 ans de décentralisation, une des interrogations qui est la mienne, quand je regarde la revue de l'ADELS, etc., depuis 30 ans, on a des fiefs, on a des baronnies, on a des comportements notabiliaires, pour avoir fait une typologie de cela en travaillant sur les comportements des élus, pas en Poitou-Charentes, mais bien sûr dans d'autres régions, Poitou-Charentes étant vertueux par définition, on a cela. Et dans le même temps, on a les 15 mêmes pourcents de territoires urbains ou ruraux, parce que le clivage urbain-rural n'a pas de sens, les 15 mêmes pourcents de territoires où on a des élus qui portent des pratiques de coélaboration de politiques publiques, mais ce sont toujours les mêmes territoires en France. C'est Michel Dinet, on connaît ces élus leaders qui portent des initiatives de démocratie participative avant que cette notion ne soit vulgarisée par quelqu'un que l'on connaît ici. Donc la question que l'on peut se poser, c'est ce poids de l'histoire, c'est comment faire évoluer les comportements des acteurs pour passer de 15% de territoire où il y a des pratiques de démocratie participative à 20, 25, 30%. Première interrogation. Deuxième constat, tu l'as évoqué, mais j'insiste sur ce point parce que quand même, comment on fait ? Comment on fait pour faire que ceux qui sont dans les conseils de développement, ils ressemblent en termes de catégories socio-professionnelles, d'âge, de genre, à ceux qui sont élus ? Ce sont les mêmes. Voilà. Donc ils ne sont pas élus, mais ils sont actifs dans la cité. Et les exclus, les pauvres, les sans grade, les sans diplôme, etc., ne sont pas associés, ne participent pas. Comment faire ? Je ne sais pas comment faire. Voilà. Et puis les dominants, les chefs d'entreprise qui prennent des décisions, pas l'artisan, pas la PME, mais qui prennent des décisions qui ont un impact économique territorial, n'ont pas besoin de participer au processus de démocratie le soir, etc., parce qu'ils prennent des décisions qui agissent sur le territoire. Donc comment avoir une démocratie participative qui soit plus représentative des différents conflits d'intérêts, parce que de fait, toute société est source de conflits d'intérêts. Enfin, là-dessus, je suis d'accord avec toi, ne rêvons pas d'une société. On est tous porteurs d'intérêts contradictoires. La question, c'est comment on dépasse ces conflits d'intérêts et comment on élabore des consensus locaux pour élaborer des politiques publiques qui améliorent la vie des personnes et qui peuvent réduire les inégalités socio-spatiales. Troisième remarque, quelle est la bonne échelle de participation ? Parce que quand même, quand nous avons eu cette loi Voynet en 99, particulièrement intéressante, qui légitime, mais sur une démarche verticale, la création des conseils de développement, et que l'on avait des conseils de quartier, Donc on invite les habitants à participer au conseil de quartier et on les invite à participer au conseil de développement. Quelle est la bonne échelle de réflexion, d'information et de réflexion pour élaborer la politique publique? Comment on passe du quartier à l'agglo? Parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui au niveau de l'agglo, de la communauté urbaine, que les enjeux se jouent. Et donc moi, je suis pour qu'on élise au suffrage universel les élus de l'agglomération et que l'on n'ait pas un système indirect qui n'est pas visible, que l'on ait un débat autour du projet des agglos et des communautés urbaines. Et puis, dernière remarque et interrogation, on n'est plus dans les années 80. J'entends par là qu'on le sait bien, il y a énormément de discontinuité dans les rapports entre les individus, dans le rapport au temps, dans le rapport au travail, dans le rapport à tous les lieux de socialisation. Et moi, je suis acteur, élu, mais acteur depuis très longtemps. Qu'est-ce que je constate? Je constate que des habitants, mes enfants et autres, s'inscrivent dans une action collective pendant un certain temps, et puis s'arrêtent, et passent à autre chose, et puis recommencent 2 ans ou 3 ans plus tard dans d'autres actions collectives. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que l'on a beaucoup de discontinuité, tout à fait compréhensible, du fait d'une mobilité résidentielle croissante, du fait de tout ce que l'on sait, dans le rapport au temps et à l'espace qui est différent aujourd'hui qu'hier. Cette discontinuité de l'action collective, quelque part, elle percole de l'ingénierie des collectivités territoriales et des élus qui sont là sur du temps long. Et donc cette articulation des temps, on a peu évoqué cette question du temps, mais c'est une question qui me semble très très importante aussi. Et puis enfin, donc j'étais ravi de l'intervention de France et de la réaction, de la réponse sur l'État, parce que aujourd'hui le défi qui est le nôtre, c'est comment inspirer une mutation culturelle de l'État qui n'a jamais eu dans ce pays confiance dans les acteurs territoriaux, hein, qui est, voilà, pas ici, bien sûr ailleurs, pas tout Charente, mais ailleurs. Mais c'est une vraie question, cette rotation des sous-préfets, des préfets, qui ne connaissent pas les territoires, qui ne connaissent pas les acteurs territoriaux. Et donc, sauf exception, là actuellement on en a une, mais j'en suis ravi, de l'État qui fait confiance aux acteurs territoriaux et qui coélabore les politiques publiques, voilà une des questions que poser. Comment faire que les élus, je crois que ça a été dit par le maire, qui essaient de faire au mieux? Mais ça ne suffit pas d'essayer de faire au mieux pour associer les habitants et, si, une partie, j'ai parlé des fiefs et des baronnies, hein, voilà. Et tous les élus ne se ressemblent pas. Voilà, il y a des typologies d'élus, on le sait, il y a au moins 4-5 types d'élus en termes de comportement, de représentation et de façon d'être. Mais comment faire que l'habitant passe d'habitant à citoyen? Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés, parce que là, on se retrouve ce soir jusqu'à 20h30, etc., pour être là, il ne faut pas avoir d'enfants à garder, faut pas, voilà. Comment on mobilise le numérique pour recréer des espaces publics virtuels et concrets? Voilà toutes les questions qui nous sont posées, elles sont passionnantes. Voilà.
Merci. Alors, attendez, on va peut-être faire une autre réponse. Pierre, tu es d'accord pour qu'on va enclencher la deuxième série de questions? Il y aura Pierre, il y aura Stéphane, sauf s'il s'en va. Il y aura Jean-Denis, je crois.
Parce qu'il y a une jeune femme aussi là.
D'accord.
Qu'est-ce que je fais? Je réponds maintenant. Ouais.
Allez-y. Des enfants à faire garder. Alors, allez-y.
Bonsoir. Alors, bah, je rebondis sur carrément autre chose. On a parlé après beaucoup des élus. Donc, il y avait aussi le thème de l'engagement. Et alors, moi, ce qui m'inquiète, alors, la professionnalisation des élus, en même temps, je me dis que peut-être ça peut avoir du bon, parce que justement, si on dit que ça peut être un métier, ben, il y a peut-être d'autres trajectoires qui vont s'orienter vers le métier d'élu. Et puis, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt la professionnalisation du bénévolat et de l'engagement. Parce que derrière, il y a du sens. Et si on devient professionnel du bénévolat, il n'y a plus de sens. Donc, je voulais juste dire ça avant de partir. Voilà.
D'accord. Merci de votre témoignage. Donc, peut-être une première série de
questions. Oui, mais je vais pas répondre parce que ça participait au débat. Donc, enfin, on ferait. Moi, je partage la plupart des choses qui ont été dites. Sur Internet, évidemment, ça peut être le pire et le meilleur. C'est-à-dire que je pense que les potentialités démocratiques d'Internet, elles sont considérables. Et qu'il y a beaucoup de réflexions, d'ailleurs, sur la démocratie électronique. Et donc, il faut. Tu parlais d'espace public virtuel. Il est évident qu'on peut réfléchir à distance et on peut penser une démocratie délibérative. On peut penser qu'Internet contribue à une démocratie délibérative, même si la démocratie présentielle a quelque chose d'incontournable à un moment donné. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure j'ai dit la démocratie délibérative, elle est fondée sur le principe de transparence. La question de la transparence sur Internet, quand on peut s'exprimer de manière anonyme, elle est vraiment posée. Mais il est évident que sur la politique des temps, sur les rythmes de vie, on doit pouvoir donner la possibilité à un citoyen actif d'être actif quand il rentre le soir chez lui et de pouvoir contribuer à des forums, à mais évidemment les problèmes d'inclusion, les problèmes de parce que l'Internet ça passe aussi beaucoup par l'écrit. Et donc du coup, ça c'est un frein, c'est-à-dire que c'est difficile de prendre la parole, mais c'est encore plus difficile d'écrire. Et si vous faites des forums où le coût d'entrée en termes d'écriture est très élevé, les mécanismes censitaires dont je parlais tout à l'heure, ils seront encore redoublés. Alors, monsieur, par rapport à la problématique que vous avez dans votre commune, moi, c'est difficile. Mais moi, ce que ça m'évoque, ce que vous avez formulé tout à l'heure, c'est une espèce de désarroi sur en fait le fait que les citoyens ne rebondissent pas ou n'investissent pas les offres de participation que vous leur proposez. Après, moi, je ne sais pas ce que vous leur proposez parce que vous dites réunion, permanence. Vous avez cité les magazines, c'est plus de l'information. C'est-à-dire, est-ce que il y a des vraies procédures de collaboration? Est-ce qu'ils participent pas parce qu'ils ont l'impression une permanence? Est-ce que c'est moi? Pour moi, c'est pas de la démocratie participative. C'est de la démocratie de proximité. Après, concrètement, il y a le constat que vous faites dans votre commune. Énormément d'élus font ce constat. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la question de la demande sociale de participation. Il y a, je pense, énormément... Enfin, moi, je sais que j'ai travaillé là, sur des maires de communes périurbaines qui me disent qu'ils ont des populations plutôt diplômées qui pourraient participer. Ils n'en ont rien à foutre. Ça ne les intéresse pas du tout. Ça les intéresse, à la limite, la seule chose qui va les intéresser, c'est effectivement s'il y a un problème dans la classe de leurs enfants. Mais voilà, ils ne sont pas... Et pourtant, eux, ils pourraient participer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de maires utilisent la participation pour entrer en contact avec l'élu parce qu'il n'y a plus de proximité. C'est-à-dire, en fait, souvent, c'est la participation, c'est une nouvelle forme de proximité institutionnalisée. Je ne vois plus, parce que longtemps, on a une vision quand même un peu fantasmatique aussi de la commune où tout le monde se connaît, mais c'est fini. Enfin, dans certaines communes, ça continue, mais l'interconnaissance, les communes ne sont plus des sociétés d'interconnaissance, plus de la même manière que par le passé. Et donc, il y a une dépersonnalisation, d'un certain point de vue, du rapport au territoire, et la démocratie participative doit travailler aussi sur cette question. Alors après, par rapport à tout ce que tu as dit, sur la décentralisation, bon, effectivement, mais moi j'ai pas dit que les choses ne changeaient pas du tout ou n'avaient pas changé, mais globalement la décentralisation, le pari effectivement, c'était rapprocher les décisions des territoires, ça a renforcé le pouvoir des élus, la décentralisation n'a pas véritablement conduit à une démocratisation du système local. Enfin, je veux dire, tous les travaux de sciences politiques ou de sociologie ou de géographie qui parlent des nouveaux notables dans les années 80, on est passé du notable traditionnel au notable entrepreneur, mais le phénomène de la notabilité, c'est quand même un phénomène. Les notables sont différents, mais la notabilité perdure. Ça, c'est quand même le fief, la baronnie, ça reste quand même, on le voit bien avec ce qui se passe autour du cumul, l'objectif des élus. Les élus veulent se constituer un fief. Donc ça, ils veulent cumuler pour contrôler les mandats sur un territoire. Et donc, la stratégie notabilière, ça reste une stratégie d'implantation. Alors, sur les... Tu disais, en gros, c'est toujours les 20% de territoire qui font la participation. Bon, tu as cité Michel Dinet, donc c'est en Meurthe-et-Moselle, qui effectivement est très... mais moi, j'ai des cas... c'est assez intéressant parce que moi, bon, j'observe beaucoup les dispositifs en région Nord-Pas-de-Calais. Et par exemple, l'actuel président du Conseil général du Nord, Patrick Caner, s'est converti à la participation. Alors, on a un cas de conversion, parce qu'il s'est rendu compte que ça lui profitait de diverses manières, aussi parce que c'était une manière pour lui de reprendre pied dans ses services,
dans les services administratifs, hein, parce qu'il y a une problématique aussi de management des services administratifs qui est super importante. Hein. Souvent, la démocratie participative, c'est pour les élus, manière de moderniser les services et de les obliger à se moderniser en externalisant la contrainte par rapport aux citoyens. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les fonctionnaires sont assez réticents à la carte de la démocratie participative, parce que pour eux, ça les oblige à se remettre en cause.
Sauf en Poitou-Charentes.
Il y a une très bonne thèse de sciences politiques faite en Poitou-Charentes sur la démocratie participative, hein, d'Alice Mazot, je vous conseille, qui a beaucoup travaillé sur Poitou-Charentes. Sur la question que tu as posée sur l'intercommunalité, les conseils de développement, moi je pense que sur l'intercommunalité, c'est pas... Les conseils de développement jouent un rôle très important, mais tant qu'il n'y aura pas élection directe du président, des exécutifs et des conseillers communautaires, ce qui est quand même, à mon avis, j'espère que ça va arriver. Hein, on va voir ce que va donner le système du fléchage. Enfin, ça fait 20 ans qu'on nous dit que... Et qu'à chaque fois... Parce que les maires ne veulent pas de ce système. Hein. Ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. C'est essentiellement des courtiers de leur commune dans l'intercommunalité. Et donc, les maires, à mon avis, ont encore une capacité de résistance assez importante. Voilà. Je veux pas en dire.
Merci. Les réponses sont forcément courtes. Alors, question courte, s'il vous plaît.
Question courte et remarque courte, si possible. Tout à l'heure, vous avez parlé au tout début de votre intervention de l'autogestion. Et comme j'ai un certain âge maintenant, je me souviens que d'un côté, il y avait l'autogestion et de l'autre, il y a eu participation. Et on rajoutait piège à con quand on était pour l'autogestion. D'accord. Et donc, moi, j'ai l'impression maintenant de me retrouver dans la même chose. Quoi. C'est-à-dire que la démocratie participative... D'abord, c'est quelque chose qui a été décidé d'en haut, vous l'avez dit, pour les citoyens. Ils ne sont pas demandeurs de démocratie participative, les citoyens. L'immense majorité d'entre eux, en tout cas. Donc, ça va faire, si ça continue comme ça, comme a fait la participation, où c'est devenu un gadget simplement pour manipuler les gens. Je suis un ancien principal de collège, donc la participation, je l'ai connue dans mes conseils d'administration, donc bon, je vous fais pas de dessin. Entre autres, hein, bon, voilà. Donc, je ne vais pas se raconter d'histoire. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il se passe la même chose actuellement avec la démocratie participative, c'est-à-dire que, bon, quelques exemples pris totalement au hasard. Le conseil de développement de Grand Poitiers ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut sur les initiatives citoyennes parce que la démocratie électorale dit que c'est pas le bon moment, et ainsi de suite. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples, mais je vais même pas en prendre d'autres. Juste après, là, j'ai une réunion sur le budget participatif dans mon conseil de quartier. Je sais aussi comment ça se passe. Donc voilà. Justement, par exemple. Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait dire autant, même si je voudrais que ça ne soit pas ça, autant dire démocratie participative piège à con qu'on ne l'a dit de la participation. Quoi, voilà.
C'est effectivement une remarque. Bien. Alors, attendez, il y a Jean-Denis qui avait demandé la parole, et puis il y a monsieur et madame. Puis après, on arrêtera peut-être parce que... On a la question du temps, on a peut-être d'autres choses à faire dans la soirée, pour certains.
Je crois que vous avez parfaitement bien expliqué les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a une désaffection des gens pour aller voter. Moi, je l'ai parfaitement bien ressenti. Et puis, je me suis étonné que certains s'étonnent que les gens n'aillent pas plus vers ce qu'on leur propose. La plupart du citoyen dit de toute façon à quoi ça sert. À quoi ça va servir ce que je vais dire ou ce que je vais demander. On a l'impression quelquefois quand on propose quelque chose, on vous explique comment vous en passez, c'est tellement plus simple. Hein? Je crois qu'il faut pas hésiter à dire les choses telles qu'on les ressent. Vous n'avez pas évoqué, ou de façon très fugace, le référendum. Moi, je pense que, justement, entre deux élections, bien, il y a la possibilité du référendum. Et quand un référendum, pour quelque cause que ce soit, est demandé par une forte proportion de la population, je crois que c'est courage Fillon quand on ne veut pas mettre en place ces référendums.
Monsieur, s'il vous plaît, et puis madame.
Moi, depuis tout à l'heure, j'entends parler de démocratie, tout ça, ça a l'air d'être sympathique comme exercice de style. Mais je me suis un peu penché sur un petit peu d'instruction civique, et il me semble que la France, c'est pas une démocratie. Au niveau de la République, vous avez cité quelqu'un tout à l'heure, mais il me semble qu'on a très bien insisté pour qu'on soit une République représentative. En France, on n'est pas en démocratie. On est dans une république démocratique. Donc je me demande si le problème, c'est de ne pas être dans ce qu'on appelle, ce que Orwell appelait la novlangue. C'est-à-dire attacher un mot, lui donner un sens, lui donner de l'émotion, mais le vider de tout son contexte. On nous demande de parler de quelque chose, mais ça n'existe pas. Donc voilà, il est peut-être là le problème aussi. Et puis comme a dit le monsieur, pourquoi on s'investit pas en politique? Alors moi, je fais partie des mauvaises statistiques, hein. Je fais partie des gens qui font pas partie de milieu militant. Je fais partie du RSA, donc de ces gens-là. J'ai beaucoup apprécié ces gens-là qui se lancent dans des choses et j'ai fait partie des budgets participatifs dernièrement. Alors j'ai tout expérimenté, donc j'ai bien vu que on était franchement dans une proposition de l'État qui a besoin de retrouver sa légitimité, effectivement, parce qu'il pense que les choses échappent à son contrôle et c'est sa dernière parade pour maintenir l'illusion. Donc moi, j'aimerais bien qu'on sorte de la novlangue et qu'on aborde des termes vraiment importants. Quelle est la mission de l'État? Et je me rapprocherai plutôt de Victor Hugo pour expliquer la crise de l'État d'aujourd'hui, qui disait que la seule mission de nos politiques, c'était de supprimer la misère. Et à part faire du vent et décevoir les personnes depuis 30 ans, je ne vois pas à quoi ils servent. Donc j'aimerais qu'on sente le débat et qu'on parle vraiment de démocratie et qu'on se pose la question de savoir si ça existe. Voilà.
Merci, on n'est pas couché. Hein. Madame.
Alors moi, j'ai eu une petite observation. C'est peut-être une question. Vu la hauteur des débats de ce soir et des références culturelles, est-ce que vous pensez que les citoyens lambda peuvent se retrouver dans une soirée comme ce soir? Est-ce qu'il peut s'exprimer? Est-ce qu'il peut entendre? Est-ce qu'il peut avoir les références culturelles, historiques, poétiques?
Merci. Derrière vous, non, vous vouliez intervenir? Non.
Je connais dans le débat que j'aime bien ça. Comme conclusion, mais un petit peu aussi pour faire de la provocation, c'est pas subversif la démocratie participative. Donc ce qui peut intéresser aussi les gens, c'est voir par exemple ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, comment vous l'expliqueriez en tant que sociologue? Parce qu'on pourrait se demander, sa démocratie participative, c'est pas écouter les gens. Et le côté, ce qui manque, c'est la subversion. Voilà. Et les jeunes qui, justement, ont besoin d'autre chose, n'ont peut-être pas besoin de politique dans le sens où on l'entend maintenant, mais ils ont besoin de subversion. Quelque chose de subversif qui leur donne envie de faire les choses. C'est pas se retrouver, peut-être, avec comme vous l'avez très très bien montré, le fait que ça vient d'en haut. Voilà, c'était pour donner une note un petit peu différente.
Voilà. C'était une question, hein, prenez pas position. Absolument. Rémi, c'est toi qui.
Est-ce que ce soir. C'est très très compliqué. Peut-être que j'ai pas assez vulgarisé ce que j'ai voulu dire, sans doute. C'est compliqué. Après, difficile aussi de me faire une vision a priori des attentes. Ce que je vois aussi, c'est que ce qui me fascine toujours dans ce type de situation, c'est que vous êtes globalement des publics qui participent et vous êtes très critiques sur la participation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que la critique de la participation, elle est
un moteur de la participation. Voilà, c'est ça.
C'est la dialectique peut-être de la démocratie. Hein. Je disais tout à l'heure, il faut des citoyens critiques pour faire fonctionner la démocratie. Mais enfin, sauf que je pense que faut pas trop que ça dure non plus. C'est-à-dire que le risque, c'est effectivement une démonétisation de la démocratie participative, comme il y a une démonétisation de la participation, et que du coup finalement on désespère Billancourt encore un peu plus. Hein. Donc, je veux dire ça. Et donc la subversion. Moi, je suis Mon propos, attention, hein, vous lirez la note, l'article que j'ai publié, qui est quand même assez très très critique. Moi, je ne légitime pas la démocratie participative. Hein, je pense que je l'ai montré ce soir. Il s'agit pas de... Et notamment, je pense que le risque vraiment, c'est que on ne focalise la question démocratique que sur cette question-là. Alors que la question démocratique, aujourd'hui, c'est la question économique. C'est la question de la redistribution. On pourrait dire finalement, si on était un peu marxiste, et c'est pas toujours inutile de revenir à l'analyse marxiste qui est pas, à mon avis, complètement dépassée. La question aujourd'hui sociale, elle reste centrale. Hein, donc il faut revenir et on peut, alors ceux qui pensent que c'est un simulacre, c'est un paravent et que tout ça cache les vrais enjeux, ils ont peut-être de bonnes raisons. Je suis pas ici pour exprimer mon point de vue de citoyen, mais peut-être qu'ils ont des bonnes raisons de le penser. Hein, effectivement, en tout cas chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est clair que les jeunes qui veulent participer, ils vont pas aller. Les jeunes qui portent une certaine radicalité, qui veulent transformer le monde, ils vont pas aller dans un conseil de quartier. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est que les conseils de quartier, par exemple, sont pas attractifs vis-à-vis des jeunes parce que le citoyen est trop docile. Ça c'est sûr. Alors les jeunes, ils vont pas non plus dans les partis politiques, ils vont pas trop dans les syndicats, donc en fait ils se retrouvent. Donc il y a les mobilisations. Alors c'est d'autres types. Je vais faire un. Moi, ce qui m'étonne là dans les manifestations qui ont eu lieu, par exemple dimanche, vous voyez à quoi je veux faire référence, c'est qu'on dit en fait que dans beaucoup d'articles qu'il y a une socialisation à l'engagement, que les jeunes découvrent l'engagement, et c'est vrai que quels que soient les types d'engagement, et Notre-Dame-des-Landes et les manifestations de dimanche, c'était pas tout à fait la même chose, mais je pense que l'événement a un rôle important. Un événement, la socialisation par le conflit, etc. Et c'est vrai, mais je l'ai dit tout à l'heure, que la démocratie participative n'est pas assez conflictuelle. Il faut de l'opposition, il faut que ça soit rugueux. Voilà. Et c'est vrai que ça, les élus ne veulent pas de rugosité. Ils veulent que le conseil de quartier produise un avis consensuel. Ils veulent que le conseil de développement, globalement, l'avis soit consensuel. Voilà, ils ont du mal. Mais c'est aussi parce que concrètement, le problème, mais je vais terminer là-dessus, parce que c'est qu'il y a aussi une dépolitisation du discours local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, globalement, moi j'attends impatiemment les municipales, mais les municipales vont confirmer qu'en gros, les communes de gauche et les communes de droite, dans le discours, c'est proximité, pragmatisme, développement économique. Voilà, il n'y a plus non plus vraiment de politisation de l'échelle locale. Voilà.
Merci. Vous continuerez le débat après, mais Jeanne va conclure et merci à tous. Et je crois qu'on peut encore applaudir Rémi pour ses réponses. Merci.
Merci de votre attention, mais pour éviter de conclure, contrairement à ce qu'a dit Dominique, parce qu'il ne faut surtout pas conclure dans ce genre de débat. Peut-être prendre un exemple et répondre à la dernière question. Est-ce que ce genre de débat, comme ce soir, a été fait pour tous les citoyens ? Mais moi, je pense que oui. Mais oui, il y a un certain nombre de conditions. Il ne faut pas obligatoirement accepter ce qu'on nous demande. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on avait décidé de regarder ce qu'étaient les initiatives citoyennes, puis d'avoir une approche un peu plus théorique pour comprendre un peu ce qu'on mettait derrière les mots, et puis de faire une semaine de la citoyenneté. Ceci nous a été refusé, hein, d'une certaine façon, que ce soit des arguments juridiques ou autres. Il y avait deux comportements. Il y avait un comportement où on demandait un rendez-vous aux élus de la communauté d'agglomération et pour leur dire tout le mal qu'on pensait de ça. Ce qui pouvait être... vraisemblablement, on aurait été assez satisfait. On avait des arguments. On aurait certainement, pendant une petite demi-heure, eu un joli affrontement avec des arguments de part et d'autre. Et il y avait un autre comportement, c'était de se dire, eh ben, de toute façon, on va changer notre fusil d'épaule, et au lieu de concentrer tout ça sur une semaine, on va diffuser tout ça avec des méthodes différentes. Notre objectif n'étant pas de convaincre tel ou tel élu, notre objectif, il est de faire avancer l'initiative citoyenne, parce que la seule perspective d'évolution, elle est dans l'initiative citoyenne. Notre système, et ça a été dit à plusieurs reprises, je ne le reprends pas, il est quand même arrivé un petit peu au bout du rouleau. Et si, enfin, maintenant, en dehors de la planète, je ne sais pas trop où on va, hein, quand même. Hein, et c'est sur la planète que le problème se pose. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et je pourrais vous donner deux ou trois autres petits exemples, parce que je pense que c'est mieux que tous les discours théoriques. Les élus nous posent des questions, nous demandent d'avoir un avis sur le PLU, sur le plan de déplacement, sur tout un tas de choses. N'empêche que le Conseil de développement, depuis 2002, depuis sa création, a toujours tenu à avoir des sujets qu'il décide de travailler. Et pas obligatoirement en opposition avec les élus. Hein. Il y a des tas de fois où les élus ont... Il y a des fois où ils n'étaient pas d'accord, mais il y a des fois où ils ont été d'accord. Bon, et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous nous saisissions d'un certain nombre de sujets. Les âges de la vie. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on aura autant de gens de vieux que de jeunes, que de classe moyenne, et que de classe intermédiaire et autres. Bon, comment ça va s'organiser, ça? C'est les élus qui savent? C'est nous, les citoyens, qui savons? Ni les uns, ni les autres. On a tous une petite partie de connaissance là-dessus. Et il faut réfléchir là-dessus. Et c'est Poitiers solidaire des savoirs. Et c'est des tas de sujets qu'on a essayé d'aborder. Moi, je pense que ce qui est essentiel dans la période qui vient, où en fait chacun joue au chat à la souris, il n'y a pas grand monde qui connaît les solutions à apporter aux problèmes dans lesquels on est. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est là. Et je terminerai par un truc qui me tient à cœur pour des tas de raisons. C'est la question de la précarité, des marginalités et tout ça. Moi, je suis depuis des années des indies convaincu que les sociétés, elles avancent aussi par les marges. Et que ce qui est essentiel pour les conseils de développement, c'est peut-être d'aller à la rencontre. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore assez faire au conseil de développement, au moins. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais aller rencontrer. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on se rencontre sur des sujets en interne. Rien ne nous empêche d'aller rencontrer les débattants, d'aller rencontrer le quartier de machin. On essaie de le faire, mais certainement, on ne le fait pas à la hauteur de ce qui devrait être fait. Hein, déjà, on a essayé sur certains sujets de travailler avec les conseils de développement qui nous entourent. Déjà, mine de rien, parler des déplacements sans les gens qui se déplacent, c'est-à-dire ceux qui habitent en dehors de la communauté d'agglomération, il faut quand même le faire. Hein. Bah, pourtant, dans la majorité des cas, c'est ce qui se produit. Nous, on ne l'a jamais fait. On a toujours essayé de fonctionner avec les autres. Donc ce qu'il faut se demander, c'est comment on fonctionne différemment. Ce n'est pas comment on pourrait fonctionner de façon un peu plus proche des élus. Et enfin, je terminerai par une chose. C'est que je pense qu'il y a un grand absent dans nos débats, mais il aurait fallu doubler le temps. C'est la question de l'expertise. C'est-à-dire qu'on est envahi par les experts. Honnêtement, on jette la pierre souvent des élus, mais quand on voit tous les cabinets d'expertise, moi je suis frappé, je reprends la question des déplacements, on a revu exactement les mêmes études à la communauté d'agglo, à la région, au département. À chaque fois qu'on a parlé des déplacements, c'était toujours à peu près le même groupe de cabinets qui travaillait et c'était toujours les mêmes problèmes. Et cette question de l'expertise, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Il n'est pas question de la nier, pas plus que du rôle des élus, c'est indispensable, mais il est question aussi de la questionner. Moi, pas questionner l'expertise dans la manière dont elle est exercée aujourd'hui dans nos pays, c'est un vrai problème. On nous ressort toujours les mêmes salades. Et ça, en tant que citoyen, on s'en rend très vite compte. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Bon, mais ça nécessiterait... Je pense largement une autre soirée. Mais on continue à travailler. Et tous ceux qui sont intéressés par les travaux de la commission du Conseil peuvent y entrer. On peut entrer au Conseil de développement.
Merci. Toujours. Le CDR, c'est le Conseil du développement et de la ruse aujourd'hui.